Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux, même quand il faut remonter dans le temps pour y arriver. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Alors messieurs, on se retrouve pour ce 80e épisode de Fin du Game. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'on arriverait jusqu'ici?
Souvenez-vous, il y a 4 saisons.
Moi, j'ai l'impression que c'était hier qu'on se lançait, qu'on se découvrait comme ça autour de ce podcast. Vraiment, c'était hier. Et en fait, non, c'était il y a bientôt.
Souvenez-vous, la boîte de Pringles.
Je me regarde, je me dis, on a tous déménagé depuis. Donc
oui, c'est vrai. Je précise aussi que ce mois de juin, on sera encore 2 fois dans vos oreilles pour ce mois-ci. Mais après, pendant l'été, comme à l'accoutumée, nous allons ralentir un petit peu le rythme. Il y aura donc un épisode en juillet et un épisode en août. Voilà, comme d'habitude, on prend un petit peu de temps pour nous l'été, on ralentit l'activité. Ça nous permet de voilà, jouer un petit peu moins de jeux ou à l'inverse,
prendre
l'avance pour la saison prochaine
ça,
de tout ce qu'il va falloir faire.
Ça, et rattraper le retard des jeux qu'on n'a pas fait les années précédentes.
Oui.
Ah, là, ça ne s'arrête jamais en
mais
fait.
Non. Et d'ailleurs, la saison 5, hein, le programme commence à prendre forme.
Ah, hein, bah, il est établi.
Ah ouais, là,
il est établi.
Bon, et on ne veut pas balancer, mais ça sent quand même la grosse saison.
C'est la saison grosse Bertha.
Oui, ouais.
Il n'y a que des obus comme ça qui vont tomber. On remercie évidemment nos patriotes sur le site Patreon qui permet eh bien, de soutenir financièrement cette émission. C'est très simple, vous cliquez sur le petit lien. Vous pouvez nous donner régulièrement, vous pouvez aussi nous donner ponctuellement. Il suffit juste d'annuler après son don par la suite. Par exemple, là, maintenant, eh bien, vous vous connectez, vous faites le don. Et puis au prochain épisode qui sort, vous arrêtez, vous dites oh, stop, j'arrête de donner à ces gens, je leur ai donné assez.
J'ai pas aimé ce qu'ils ont dit sur le jeu,
voilà,
ça suffit.
Je leur ai donné quand même 200 euros, je pense que ça suffit, c'est quand même bien suffisant.
C'est vrai que le panier moyen est à 200 euros.
Ouais, c'est
le panier moyen.
On remercie nos patriotes.
Ce n'est pas vrai, voilà. 1 euro, 2 euros, c'est très bien.
Mais oui.
Après, voilà, si vous voulez lâcher votre petit billet violette 500, allez-y.
Mon anniversaire, c'est le 8 août.
Voilà. Et moi, c'est le 24 juillet. Hein,
donc, ouais, oh là là,
On
vous attend sur le Patreon de Fin du Game pour acheter des petits cadeaux à tout le monde. On remercie également notre sponsor Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais non. Mais pas que, mais oui, je sais.
Oh,
mais quoi,
plus.
Mais non.
Bah, mais non, c'est Third Edition à nouveau.
Mais oui.
Oui, mais
c'était pas que.
Le regard.
Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on vient de faire
là, mais il faut briser
départ.
Le cycle.
Bon, bah, on a brisé le cycle. Alors, Third Edition, on le rappelle, voilà, qui propose toute une gamme de livres sur le jeu vidéo,
mais pas que.
j'ai dû la refaire, on n'avait pas le choix. Mais aussi sur d'autres objets de la pop culture, des BD, des films, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on peut vous parler de 3 livres qui sont sortis sur la saga Zelda, puisqu'aujourd'hui, on va parler de Majora's Mask. Déjà, il y a le premier livre sur quasiment l'entièreté de la saga Zelda, qui va jusqu'à Skyward Sword, voilà, qui revient sur tous les épisodes sortis. Il y a un autre livre qui est sorti, lui, juste sur Baruzu, Ubu, Zu, Warudo, Breath of the Wild, pour faire plaisir aux petits relous qui ne sont pas contents avec notre accent anglais. Donc ça, c'est sorti. Et puis, il y a un autre livre qui est sorti sur la musique de Zelda, qui lui a été écrit par Fanny Rebillard, qui est musicologue. Et justement, Les amis, vous savez que dans cette émission, nous, on n'est pas musicologues. On n'est pas les plus fins musicologues du game. Et justement, pour cet épisode, on est allé carrément demander à la source, puisqu'on a envoyé un petit message comme ça à Fanny. On lui a dit, est-ce que tu voudrais pas nous préparer un petit truc sur la musique de Zelda, Majora's Mask, de cet épisode-là. Et du coup, bah voilà, vous retrouverez Fanny au cours de cet épisode. Elle nous a préparé une petite capsule. Voilà, d'une dizaine de minutes où elle décortiquera la musique du jeu. Mais bon, on y reviendra. Et du coup, on en profite quand même une nouvelle fois pour remercier les gens sur le Patreon parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on peut se permettre de tenter un peu des choses comme ça. Il est hors de question qu'on demande à des gens de travailler sans les rémunérer. Donc c'est, voilà, encore une fois, c'est grâce à vous qu'on peut se permettre ces petites tentatives-là. Et puis, bah, on est impatient d'avoir vos retours. Voilà. On peut le dire, c'est cet homme-là qui est en face de moi, qui est dans un exercice tout à fait radiophonique.
Pour l'instant, vous avez une chance sur deux.
Ouais, c'est toi, Maxime, qui a eu cette idée.
C'est l'homme des idées. Hein,
oui, c'est vrai. L'homme de l'ombre.
Oui, oui.
Celui qui. Le puppet master, comme
l'homme
ça.
L'homme de la grogne aussi. Hein,
Non, mais il y avait un alignement de planètes, en fait, parce que Fanny, vous l'avez peut-être déjà lu dans Game Cult ou dans Canard PC Hardware aussi, je crois, elle a pu piger un petit peu dans ces domaines-là. Et puis, bon, nous, en musique, globalement, voilà, c'est pas trop notre domaine d'expertise.
On sait dire, elle est jolie, la musique.
C'est ça.
Il n'y a pas beaucoup de jeux avec du rap, donc voilà, malheureusement.
Voilà, votez sur Patreon pour le Def Jam Fight for New York.
Ouais, un jour, on y arrivera, peut-être.
Et du coup, il y avait le bouquin sur d'édition sur la musique dans Zelda, du coup, voilà, petite occasion de faire ça.
Donc voilà, on est très content et encore une fois, on attend vos retours, on espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on est donc parti pour parler de Majora's Mask et d'ailleurs, il y aura musique de générique. Maxime, est-ce que ça a été choisi par notre DJ national?
Pas encore, mais de toute façon, parce qu'il faut exploiter le paradoxe des fanzous de Majora's Mask, puisqu'on a d'une fois une pression, la lune qui dit attention à la musique et tout, mais si toute l'OST est incroyable, je peux pas me tromper de toute façon.
Qu'il est fort.
Et bah oui.
Impossible qu'il est fort.
Ne faites
pas ça
chez vous.
Voilà. Impossible que des numéros 7. De se tromper, on se retrouve juste après ça. Alors, Majora's Mask, ça sort chez nous le 17 novembre 2000 sur Nintendo 64. C'est ressorti sur GameCube. Après, il y avait une version collection avec Ocarina, Majora. Je crois qu'il y avait même d'autres. Il y avait peut-être même A Link to the Past là-dedans.
Il y avait une démo de Wind Waker.
Et une démo de Wind Waker, voilà. Donc ça, c'était ressorti sur GameCube. Et puis, c'est ressorti aussi via un remake sur Nintendo 3DS. Et ça, c'était en février 2015. Remake qui corrigeait 2-3 petits trucs. Mais bon, globalement, c'était...
Tu modifiais, parce que si on commence à dire que ça corrige, attention, ça sous-entend...
Excusez-moi, je me suis trompé, des mots sont sortis, mais ce n'était pas ceux auxquels je pensais. Enfin, excusez-moi, chers amis. Il y a des petits ajouts, mais de toute façon, je ne sais pas si on y reviendra trop, peut-être, on verra si on y revient.
Qui c'est qui a joué sur la version 3DS?
Moi.
C'est toi,
coucou,
qui l'a fait.
C'est moi, j'ai joué sur la version 3DS, effectivement. Super 3DS, même, j'ai joué. on va pas forcément revenir sur la saga Zelda, parce qu'on l'avait déjà fait un petit peu au cours d'un autre épisode sur Baruzu Ubo The Warudo, qui était sorti il y a longtemps, en première saison. Par contre, on peut peut-être revenir sur ce moment-là pour Nintendo. Qu'est-ce que c'est la Nintendo 64? C'est évidemment le passage à la 3D pour ces gens-là. Il y avait déjà eu Mario 64 qui, là aussi, on l'avait dit dans l'épisode, qui va permettre vraiment le passage de la série.
Qu'est-ce qu'elle est complète, cette émission, ce podcast. Moi, je serais vous, je mettrais 5 étoiles sur iTunes.
Je le ferai même, je ferai pause et je le ferai maintenant, effectivement. Donc voilà, il y avait déjà Mario qui avait apporté ce truc, mais ensuite, en 98, il y a Ocarina of Time qui va sortir et qui lui, de la même manière, va transposer la formule qui avait été établie avec A Link to the Past, donc les donjons, les machins, patati patata, et va le faire en 3D, et c'est une réussite absolue, je crois. Je sais pas s'il y a un jeu, je sais pas si au firmament là des jeux qui sont un peu dans notre sphère, je vois pas de truc un peu plus haut qu'Ocarina of Time.
Ça fait partie de ces jeux, tu vois. Moi, je donne des listes aux étudiants et étudiantes en début d'année. Bon, s'ils ont pas joué Ocarina of Time à 50 ans, ils ont raté leur vie, quoi.
Oui, c'est vrai.
C'est un jeu culte en fait, parce qu'il a
c'est plus que culte, c'est un vrai
défini.
Classique.
C'est un vrai pilier de comment on gère aujourd'hui l'action en temps réel en 3D. Voilà, c'est vraiment là, c'est lui qui définit quasiment tous les codes de ce qu'on appelle les 3C, la gestion de la caméra, du personnage et les contrôles. Il y a tellement d'éléments en fait d'Ocarina
vraiment,
qu'on retrouve ailleurs.
Tu vois le truc du lock de la caméra sur l'ennemi. Enfin, imaginons que vous ayez joué il y a un petit jeu, attends, j'ai oublié son nom là qui est sorti cette année.
C'est par Elden...
Ouais, voilà, ça commence par Elden... Elden Ring. Bref, si vous jouez à Elden Ring, en fait, concrètement, le lock des ennemis, c'est celui de Zelda. Alors, évidemment, en infini et tout, mais c'est les mêmes codes, quoi. Et c'est ça qui est ouf. C'est si vous reprenez, Ocarina of Time, il y a déjà tellement de choses que le jeu get right, comme on dit, genre mm-hmm. qu'il a juste dès ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que c'est assez.
Il y a eu des petits. Il y a vraiment eu des petits, voilà, des petits détails qui ont été rajoutés ici ou là. Moi, je sais que dans Soul River, typiquement, ils ont rajouté le côté pas chassé, qui reprend justement beaucoup le gameplay d'un Bloodborne ou quoi. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Mais de base, tu te dis, il n'y avait rien avant, et ils ont plus ou moins tout inventé. Donc voilà, même si la Nintendo 64 fait partie des échecs de Nintendo en termes de vente, ben, ils ont quand même apporté énormément à cette époque-là aux jeux vidéo.
On peut penser aussi à la transposition des donjons en 3D, où ils ont vraiment su exploiter en fait, la verticalité, notamment avec la caméra subjective, où tu vas avoir des flèches, tu vas pouvoir regarder au plafond, tu vas pouvoir regarder en bas, tu vas pouvoir couler, le fameux temple de l'eau, machin.
Ouais, ouais.
Mais voilà, c'était pas juste un peu du Zelda 2D mal fait qu'on passe en 3D. Non, ils ont vraiment réfléchi tout le truc.
On retrouve le délire des raccourcis qu'on ouvre, qui permettent d'aller plus vite dans les donjons. Du coup, le LD est bien exploité.
Franchement, c'est complètement fou, en fait, la révolution. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fois, c'est une révolution technique et vraiment même de médium. C'est-à-dire qu'on change tellement les possibilités. Et en fait, je trouve arriver à quelque chose d'aussi juste, d'aussi réussi dès cet épisode, enfin, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, Ocarina of Time, monument absolu.
Et c'est pour ça qu'on
n'en
parle pas.
Oui, c'est vrai, parce que justement, en fait, c'est un jeu qui a tellement été discuté, et je pense qu'en fait, il y a cette espèce de consensus qu'on n'avait pas forcément envie de revenir sur Ocarina of Time dans sa globalité. C'est bon, on connaît. Réussite critique, évidemment, mais aussi commercial, hein, puisque bah, voilà, c'est à peu près 7 millions de ventes, en tout cas sur Nintendo 64. Par la suite, il y aura là aussi des rééditions, des trucs comme ça, donc les chiffres vont grossir. Mais sur Nintendo 64, voilà, 7 millions d'exemplaires vendus, c'est pas dégueulasse.
Ben, oui, parce que je sais plus combien il y avait de 64 en circulation, mais il n'y en avait pas tant que ça.
30, ouais, c'est une trentaine de millions, je crois, hein, ce qui est pas mal quand même.
C'est quand même costaud. Enfin, le chiffre de vente, pas le nombre de consoles. La 64,
oui,
ça reste un échec.
Effectivement, ça, c'est pas dingos. Après cet épisode, eh bien, là, il est temps de dire les termes, de revenir dans le passé, parce que moi, je connaissais pas cette histoire. Mais en fait, Saint Miyamoto, il voulait douiller les gens. À la base, il voulait faire une sorte de version remix d'Ocarina of Time. Alors, c'est pas la version Master Quest qui est sortie un petit peu par la suite, un truc un peu plus difficile.
Je suis en train d'imaginer une dimension parallèle où Nintendo était avec Square Enix, et tu sais, c'est genre Kingdom Hearts avec le système des titres de
Non, mais
Zelda.
Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est amusant, c'est que, voilà... Aujourd'hui, on a tendance à se plaindre, voilà, des versions supérieures, machin et tout. Mais en fait, bah là, on est en 98-99 et Nintendo, ils sont en mode, ouais, on va essayer de remixer un petit peu les donjons et puis voilà, on ressort Ocarina of Time.
Ocarina
quel est le problème?
Ocarina of Time 2X Turbo.
Oui, voilà,
comme
un truc
ça,
comme ça.
Ouais.
Tu vois quel est le problème? Ça marche très bien. Mais justement, bah ça marche pas si bien que ça dans le développement. Il y a notamment donc Eiji Aonuma qui est un peu le numéro 2 de Zelda, si on considère que Miyamoto c'est le numéro 1, même s'il était déjà réalisateur sur Ocarina of Time. Aonuma, il commence à bosser un petit peu donc sur ce remix, mais voilà, ils ont du mal, ça convient pas, ça se passe pas très bien, il a envie de bosser un peu sur un truc, et du coup la légende dit que Miyamoto serait venu le voir et lui a dit bon bah écoute, si t'es pas content, je te donne un an pour faire ton jeu, pour faire le Zelda que tu veux, et si t'y arrives, bah c'est bon, tu peux le sortir, il faut juste que t'y arrives en un an.
En un an, frère. Il y avait écrit en un an frère.
Frère, oui, j'ai dit,
moi j'imagine
oui,
bien Miyamoto tu vas venir
frère, ouais. Frère, t'as un an pour faire ton jeu, si t'y arrives pas bah on va être dans la merde quand même, donc c'est quand même un peu un ultimatum un peu particulier, mais du coup c'est ce qui va se passer.
Juste pour dire qu'à l'époque, un an pour faire un jeu vidéo c'est long.
On se posait un peu la question, c'est compliqué de, je pense, en fonction de la plateforme. Là, comme c'est complètement en 3D, sur le coup, tu dis ouais, c'est compliqué, mais bon, finalement, comme il y a réutilisation des assets, tu vois, enfin, ouais, tu penses que.
Bah, pour l'époque, on n'est pas encore dans une norme, ou alors on commence à peine justement avec l'avènement de la 3D, mais c'est, voilà, c'est pas un an, c'est pas
non,
si
c'est
peu que ça.
C'est-à-dire
c'est
que pas
comme si aujourd'hui,
voilà,
on lui aurait dit.
Si t'as un an, voilà. Tu dis ok, oui, bah, bisous, bah désolé, on continue le remix, y'a pas de problème.
Bon, un an, ça va. Ils avaient quand même un,
oui,
la
oui,
possibilité de faire quelque
c'était
chose.
C'était possible. Alors déjà, il y a eu du crunch, hein, donc ils n'étaient pas si larges que ça, hein, évidemment. Et puis, comme tu l'as dit, Maxime, il y a eu énormément de réutilisation d'assets. Majora's Mask, quand on y joue, on a vraiment l'impression quand même de voir une sorte de remix d'Ocarina of Time, parce que tous les persos sont là.
Et ils ont quand même mis plus d'un an. Enfin,
et ils ont mis un an et demi,
précis,
oui, effectivement, c'est vrai. Il y a tous les persos qui sont là. Le moteur, c'est le même. énormément d'assets, d'objets qui sont réutilisés. Donc vraiment, c'est on prend les mêmes, mais on remélange, on crée ça sous une recette différente. Et justement, c'est ça qui est cool, c'est que bah, pendant toute cette année et demie de développement, ils vont pouvoir vraiment se focaliser sur la conception et le design du jeu plutôt que sur le développement de moteurs, etc. Et je trouve que c'est... c'est assez malin, tu vois. C'est déjà, il y a un truc de dire, bon bah, on a passé beaucoup de temps à développer tous ces outils pour Ocarina of Time, il faut qu'on puisse les rentabiliser d'une autre manière, tu vois.
Ça, pour le coup, c'est une hygiène de travail qu'il faudrait qu'on finisse par accepter, parce que tu vois, on est toujours à réclamer des jeux plus jolis, etc. Ouais, ouais. Alors que quand ils nous font justement un Elden Ring, pour parler de recyclage, oui, ben, ils ont pu passer plus de temps à se concentrer sur les niveaux et les trucs plutôt que de s'embêter à redesigner le même Zomblard pour la 50e fois.
Tout est lié.
Ben oui. Non, mais il y a plein de jeux comme ça, quand il y a des suites, enfin, tu te dis, bah, on s'est embêté à faire tous ces assets. Mmh. Aujourd'hui, en plus, c'est violent, avec, tu vois, avec les animations, les cutscenes, les machins, enfin, ça demande des moyens de production de fou. Si on réutilisait tout, au lieu de vouloir à chaque fois doubler le contenu, ça serait mieux.
Voilà. Et puis surtout, en se focalisant sur le design, la conception, et puis bon, voilà, quand on voit l'originalité de Majora's Mask, on se dit, on a quand même gagné au change, je pense. Alors, il y a aussi, à cette période, il y a ce travail sur l'expansion pack de la 64, qui rajoute notamment, accroche-toi à ton slip, Maxime, 4 mégaoctets de mémoire vive.
Oh mince.
C'est complètement ouf. À la base, c'est parce qu'ils travaillaient sur un truc justement pour l'espèce de remix de Zelda avec un outil qui va sortir que au Japon et au final, ça va devenir l'expansion pack. Voilà, il y a ce truc qui va rajouter de la mémoire vive.
Oui, parce
vive.
Que bon, Nintendo, ils ont toujours aimé mettre la douille du côté hardware. Ça, ils aiment bien. Les petits accessoires à la con, c'est un peu leur...
C'est leur spécialité.
Ouais, c'est leur petit jardin secret.
Du coup, ça leur donne quand même aussi un peu plus de patates pour se permettre de faire des choses et du coup, bah, profiter encore plus de tous ces assets et tout, ce qui leur permet, encore une fois, de se concentrer sur le design.
Mais paradoxalement, ça ne va pas les aider.
Voilà, ça ne va pas se passer si bien que ça. Aonuma, il va avoir un peu du mal en étant au reine du projet, à donner vraiment la direction. Et du coup, Miyamoto, il va aller chercher un autre numéro 2, numéro 3. Voilà, un autre frère, il va dire. Il y a le petit frère, là, Koizumi, donc, qui était aussi director sur Ocarina, de lui prêter main forte. Et c'est notamment Koizumi qui va arriver avec ce concept de boucle temporelle, puisque lui, dans sa petite besace, il avait une idée de jeu avec des policiers et des voleurs, où les policiers avaient 7 jours pour trouver comment coincer les auteurs du vol. Et du coup, c'est pas un jeu qu'il pouvait réaliser. Du coup, il a dit, on le met dans le Zelda, c'est bon, allez-y. Alors au début, c'est 7 jours, et puis ça passera sur 3 jours après par la suite, parce que j'imagine qu'en termes de planning, ça commence à être vraiment complexe de faire une boucle de 7 jours.
Je retiens l'expression quand même, auteur du vol. Hein. C'est un peu... On romantise un peu la profession. Quoi.
Les auteurs présumés.
On appelle ça des coupables.
Non, mais c'est un art. T'as pas regardé Ocean's Eleven, les trucs comme ça. Moi, c'est on peut être auteur de vol. Il y a une grosse partie de l'équipe d'Ocarina of Time donc, qui va se concentrer sur le travail de Majora. C'est 2/3. Et puis, il y aura aussi des nouveaux arrivants, de nouvelles personnes qui vont aider au développement du jeu. Et pour ce qui est des masques, qui est une des features principales de ce Majora, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ils voulaient donner à Link plein de capacités différentes. Le problème, c'est qu'un schéma de contrôle juste avec une manette, ce n'était pas possible. Il n'y a pas 20 000 boutons, donc on ne pouvait pas se permettre de faire...
Sauf chez Kojima, où là, tu peux t'abuser à rajouter des boutons
dans tous
les sens.
C'est vrai, quand on commence à appuyer sur un bouton avec l'index, un autre avec le petit doigt, et ensuite avec le pouce, tu peux faire des combinaisons incroyables.
Peut-être un accessoire pour la manette de la Nintendo 64.
Oui, en plus, c'était spécial. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, la manette de la 64, ce fameux trident.
Est-ce qu'il faut qu'on en parle de ça?
Moi, j'aime beaucoup.
Toi, t'aimes beaucoup.
Mais oui, j'ai des bons souvenirs du trident.
Mais je comprends pas. Après, moi, j'ai pas eu de 64, donc à chaque fois que je mets les mains dessus, je fais... What the fuck is going on? Je comprends pas.
Parce que t'as plusieurs positions, tu mets pas la main, tu vois. Tu peux prendre en main, t'as besoin du stick, donc tu prends le truc du milieu, tu peux la prendre comme une manette classique. Enfin, ouais, non, y a plein de choses à faire.
Ouais. Non, moi, je comprends pas. Pour moi, il manque une troisième main au milieu qui. Ça marche pas. Bref.
C'est un peu la blague si jamais une civilisation alien retombe, tu vois, sur nous et trouve les manettes de 64.
Ils auront trois, ouais, c'est vraiment ça. Donc, je disais, les masques, il y a ce fameux schéma de contrôle qui était trop compliqué, et du coup ils se disent comment on peut faire passer Link d'un schéma de contrôle à un autre, et c'est cette idée justement de dire il y aura un peu un style Goron, un style Zora, et c'est là que les trois masques principaux du jeu arriveront, et puis après il y aura plein d'autres masques qui permettront, qui donnent soit des petites capacités passives, soit des petites capacités actives. Je pense
Du lapin,
le masque du lapin, ça c'est passif. Il y a le masque de la bombe qui te permet de exploser sur place, voilà, ce qui est malin. Et donc il y a 24 masques, hein, on a dit, dans le jeu.
Ouais, 24 ça, voilà. En tout, et en vrai il y en a 6 qui sont obligatoires. Mais il y en a 3 vraiment, comme tu l'as dit, où ça va vraiment être du gameplay, de la résolution, un petit peu de puzzle, des accès. Les autres, c'est aussi plutôt passif, ça va t'ouvrir des passages où ça va te permettre de te battre contre un boss, mais bon, c'est pas dans la même catégorie, quoi.
Et puis avec cette transformation vraiment littérale de Link, qui est Link sous forme Goron, sous forme Zora, j'en parle parce que j'avoue qu'à l'époque, quand je regardais, parce que moi je regardais les consoles et les jeux dans les catalogues Jouet Club, il y avait toujours une double page de vidéos, et je me souviens qu'ils mettaient parfois des artworks. Il y avait ces fameux artworks des quatre lignes différents, et je sais pas, ça me hypait de ouf. J'avais vraiment une curiosité, je me dis.
J'avais tous des liens dans les kits Caméléon, il y avait plein de jeux comme ça où on pouvait changer, Altered Beast aussi, où on pouvait changer de forme comme ça. C'est toujours des jeux qui ont bien fonctionné. Et on peut aussi signaler que notre ami Jim Carrey, il avait fait son film avec The Mask pas longtemps avant.
C'est l'inspiration, ça, chez Nintendo, ça, dans les interviews, j'ai pas trouvé. Il en a pas parlé.
Il y a toujours un peu de storytelling, mais
ils ont pas osé dire en fait c'est Jim Carrey et The Mask.
T'imagines, on aurait eu un crossover aujourd'hui, tu vois, avec The Mask dans Majora's Mask.
Très bien, voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir.
Je suis bientôt en vacances.
Voilà. Alors, le jeu, finalement, il sort, donc, je l'ai dit, en 2000. Il est sorti début 2000 au Japon et après chez nous, pardon. Et la sortie, la critique, elle est unanime. On est sur un 95 Metacritic. Le jeu est extrêmement bien reçu, c'est vraiment la folie, grand succès. Ah, mais non, en fait, pas totalement, puisque commercialement, ça va être beaucoup plus compliqué, notamment à cause de ce fameux expansion pack, puisque pour jouer à Majora, il fallait acheter ce truc-là, sinon le jeu ne tournait pas.
Et évidemment, parce que les gens de chez Nintendo sont des gens adorables, pensez à toutes les personnes qui travaillent dans des magasins de jeux vidéo pendant que vous nous écoutez, ils ne le vendaient pas en même temps. Imaginez toute cette génération d'enfants, tu vois, qui sont devenus des terroristes, je pense, par la suite, qui ont reçu à Noël Majora's Mask et il n'y avait pas l'expansion pack, tu vois.
Et là, non, t'as pas acheté l'expansion pack.
Et encore, faut que le gamin ait compris qu'il manque ça. Alors peut-être que c'était clair.
C'est écrit en gros sur la boîte.
Okay. Ah, c'est écrit en gros sur la boîte.
Il faut l'expansion pack. Les parents, ils regardent pas.
En vrai, c'est normal, tu vois, de pas être au courant.
Et surtout, si tu l'achètes dans une grande surface ou que t'as pas de vendeur pour te conseiller, c'est facile de faire l'erreur.
Totalement.
C'était un vrai frein, je pense, clairement, tout comme il y a eu... on en parlait quand on regardait les chiffres de vente des différents Zelda sur console de salon, et Skyward Sword, qui avait besoin du Wii Motion Plus pour pouvoir être joué. Il a pâti, en fait, de ça.
En tout cas, quand Majora's Mask sort, parce que 3,5 millions, c'est quand même... c'est pas mal, quand même. On l'a dit, Nintendo 64, c'était à peu près 30 millions, donc c'est pas si dégueu que ça en proportion. Mais au moment où Majora's Mask sort, en fait, c'est le Zelda le moins bien vendu, en fait, des quatre, du coup. Je crois que c'est le quatrième, je dirais.
Ouais, c'est le quatrième gros Zelda.
Ouais, canonique, on va dire. Ouais.
Parce qu'après, Zelda portable.
Oui.
Et autre aspect qu'on peut aussi prendre en compte, c'est qu'au moment où ça sort en novembre 2000, il y a une petite console qui s'appelle la PlayStation 2 qui arrive. Et c'est quand même un sacré raz-de-marée, parce qu'on le rappelle, console la plus vendue de l'histoire, etc., etc. Forcément, ça a dû jouer. La console était un poil plus chère que la 64. J'ai pas réussi à trouver les prix en France. Il y a des gens qui se souviennent de ça sur
des
le Discord.
Prix de la PlayStation 2.
J'ai pas réussi à les trouver à combien elle sortait. C'était pour comparer, tout simplement.
Et on demandera à Oscar le maire, au pire.
C'est vrai que j'ai pas pensé à lui demander.
Ouais, au final, c'est-à-dire qu'à cette époque, finalement, on a l'impression que Majora est un peu plus dans le passé, alors qu'il y a le futur de la PlayStation 2 qui arrive. Surtout qu'il y avait ce truc, justement, de réutilisation d'assets et tout. Il y avait une partie des discussions à l'époque qui était assez critique vis-à-vis de Majora's Mask, en mode, c'est un peu la même chose, etc. Donc, le jeu, en même temps, il a souffert quand même de cet expansion pack. Et en plus, sur sa sortie, c'était peut-être un peu plus compliqué à marketer avec le côté sombre et tout, mais on reviendra tout ça par la suite. Néanmoins, il est quand même resté culte. C'est un Zelda qui a marqué, en tout cas, les gens qui sont rentrés dedans. On l'a bien vu sur le Discord, tous les PP, les profile picture Majora, on vous reconnaît, c'est facile de vous voir. Et on va justement rentrer dans l'histoire, et c'est Benoît qui va nous raconter la grande histoire de cette seconde aventure de Link au pays 3D.
Oui, parce que effectivement, ça se passe donc dans le même univers que Ocarina of Time. Et donc, je le dis, tout le monde s'assoit, tout le monde prend une grande respiration. Non, nous ne parlerons jamais de la chronologie des
Zelda.
Ah oui,
ah non.
dans cette émission, jamais de la vie. La seule chose, c'est que effectivement, ça c'est canon, Majora's Mask se passe quelques temps, on ne sait pas exactement combien après Ocarina of Time. On retrouve Link enfant qui se balade avec Epona. Il est à la recherche d'un ami. C'est ça que le jeu nous dit. Alors, est-ce que c'est Navi? Est-ce que c'est Zelda? Est-ce que c'est Obi-Wan Kenobi? On ne sait pas. Pour les gens du futur et les aliens qui nous retrouveront, c'était le moment où la série du même nom sortait. Donc voilà, j'ai le droit de faire la blague. Obi-Wan Kenobi, je m'en fous. Et il tombe en fait sur le Skull Kid, qui est un personnage qu'on connaissait parce qu'on l'avait croisé rapidement dans Ocarina of Time. Il est accompagné de deux petites fées, Tael et Taya. Et c'est un peu genre, il se fait bolos direct.
Ouais,
vraiment, il se moque de lui. Ouais. Il lui fait tomber son cheval.
Déjà.
Voilà, il lui vole son cheval. Ouais. Link, il est obligé de courir après le Skull Kid pour pouvoir le récupérer. Et juste là, il tombe un peu sur le Skull Kid qui est vraiment pépouze en train de flotter à quelques mètres du sol en disant, écoute, ça suffit tes conneries. Et hop, il le transforme en peste mojo.
Oui, parce que petite précision par rapport à... Parce que tu l'as mentionné, on pouvait le croiser dans Ocarina of Time. C'est, je pense, une petite quête annexe, un petit truc. Là, il a un masque, tu vois. Il a l'air d'avoir des pouvoirs. Ouais.
C'est pas une quête annexe, hein, c'est vraiment dans les bois Kokiri au tout début.
Non,
quand
c'est
on fait
annexe
la petite...
parce que tu...
Tu dois y aller quand même au tout début.
Oui, on va les croiser. Non, c'est parce qu'on peut les recroiser plus tard. Et tu sais, on peut jouer justement le champ de Saria pour récupérer un quart de cœur. Mais ça, il y a cette partie qui est un peu...
Tout ça pour dire qu'effectivement, il a le masque de Majora. En tout cas, on s'en doute parce que c'est celui qui est sur la boîte du jeu. Donc on se dit...
Il y a peut-être un lien.
Il y a un
lien,
peut-être que c'est ça. Et donc, on est transformé en peste mojo et on va poursuivre Skull Kid comme ça, travers une espèce
de
grotte.
Il se trouve qu'on était juste sous un clocher de Bourg-Clocher, qui est le village principal de Zelda Majora's Mask. Et on se retrouve face au marchand de masques, qui est un personnage vraiment étrange du jeu, que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance de ce type-là. Et il lui dit, écoute, mon petit bonhomme, je vais t'aider à retrouver tes pouvoirs, etc. Mais en échange, tu vas devoir me trouver le masque de Majora
parce que justement
Skull Kid lui a volé, et comme par hasard le marchand de masques part dans 3 jours. Voilà,
il part dans 3 jours.
Oui, voilà.
Effectivement.
Et au début on se dit, bon ok, j'ai que 3 jours, et ça va devenir effectivement cette limite de 3 jours beaucoup plus prégnant, puisque rapidement on va se rendre compte que la lune, cette fameuse lune avec ses gros yeux et ses grosses dents dégueulasses, va nous tomber sur la gueule, et on va passer le premier cycle du jeu à découvrir Bourg-Clocher, à essayer de retrouver déjà dans un premier temps sa forme humaine. On va discuter avec les enfants, on va discuter avec la grande fée, on va faire des trucs, des machins. On arrive finalement à la fin du premier cycle, et là donc on arrive à récupérer l'ocarina auprès de... Enfin, on le fait tomber l'ocarina pendant que...
On lui crache une petite bulle mojo.
Oui, c'est les bulles...
Ouais, c'est ça, voilà.
On lui crache à la gueule et il lâche l'ocarina. Et
bah
là,
oui,
on...
le crachat, ça surprend. Bien sûr. Tu laisses tomber ton harmonica, quoi.
Et on récupère l'ocarina, et là, il y a un flashback de période Ocarina of Time, où on voit Zelda qui nous apprend, ou nous réapprend plutôt la mélodie du temps, qui nous permettait avant d'avancer ou de revenir de 7 ans, je crois.
C'est quand tu devenais adulte, ou Link enfant.
Et du coup, là, on peut jouer pour revenir dans le temps, puisque la lune va s'écraser. Visiblement, on va pas pouvoir battre Skull Kid maintenant. Du coup, on bat en retraite, en fait, dans le temps, et on se retrouve face au marchand
de masques, qui nous apprend, du coup, le chant de l'apaisement, va nous permettre de redevenir, justement, humain. Mais comme on n'a pas rempli notre part du marché, il nous engueule, et on va devoir, en fait, aller récupérer, empêcher, dans l'histoire de la lune qui s'écrase. Mm-hmm. Et pour ça, on doit, je vous le donne en mille, finir des donjons, parce qu'on est dans un Zelda. Il y a 4 donjons, 4 points cardinaux.
Il y a 4 géants, 4 points cardinaux de cette zone, et il va falloir aller les appeler pour dire « STP, aide-nous à retenir la lune qui tombe ».
Parce que ça, on le sait pas dès le début, c'est une des... Donc la fée qui était restée avec Skull Kid, parce qu'elles sont sœurs ou frères et sœurs, je sais pas.
Oui, je crois que c'est frères et sœurs d'ailleurs.
Et il y a la fée qui est restée avec nous, et celle qui reste avec Skull Kid, en fait, nous donne des indications, genre nord, sud, est, ouest, plutôt ça.
Marais, montagne.
C'est ça.
Oui, parce qu'en gros, ce qu'on comprend, c'est que le Skull Kid, il a pété un boulon en prenant ce masque, justement, et il se comporte pas comme il se comporte d'habitude. D'habitude, il est un peu facétieux, mais c'est tout.
Il est espiègle.
Il est un peu espiègle, mais là, même les fées se disent « Ouais, il est un peu dangereux, quand même ». Et donc, les fées nous aident, et c'est ça. Et le truc, c'est qu'évidemment, dans chacun des donjons et dans chaque région en fait qu'on va visiter, le Skull Kid va foutre la merde et il va embêter les gens locaux. Alors dans le marais, je sais plus ce qu'il fait.
L'eau est empoisonnée. Voilà, c'est ça.
Et il fait pas un peu. Ah non, il fait geler l'eau dans la montagne des Gorons.
Non, il y a de la neige en continu. Il y a un problème écologique là-bas. Ils ont mis trop de climatisateurs.
Parce que le lien logique, je sais plus vraiment, parce qu'en fait, il faut, par exemple, pour reprendre le temple Mojo. Donc donc l'eau elle est toxique. Il y a le boss en fait qui porte un masque et quand on le tue, bah ça libère. En fait, je comprends pas le processus, mais ça libère en fait un géant quoi. Voilà, c'est magique, voilà.
Et globalement en fait, bah Link va devoir résoudre les problèmes dans chacun de ces régions, parce que non seulement il y a le donjon qui cristallise un petit peu le mal qui ronge la zone, mais ça crée aussi des problèmes dans les différentes populations. Chez les pestes mojo, il y a un problème avec un petit singe, c'est-à-dire que le chef de machin, il y a sa fille qui s'est fait capturer ou je sais plus quoi, il croit que c'est le petit singe. Chez les gorons, c'est le bébé qui arrive plus à chanter ou qui pleure constamment.
Il pleure tout le temps s'il dort pas.
Il arrive plus à dormir, ça, c'est un problème souvent avec les enfants. Et après, voilà, chez les auras, c'est la chanteuse qui n'a plus sa voix parce que ses œufs ont été enlevés par les pirates. Et à Ikana, je ne me souviens plus. Bon, c'est il y a des problèmes avec des fantômes, quoi. Voilà.
Il y a des zombies.
Ce qui est aussi problématique. Donc, en tout cas, on va aller dans chacune de ces régions dans un ordre assez précis. Hein. C'est pas du tout un jeu qui est ouvert. On peut faire. Enfin, il y a des petites choses qu'on peut faire un peu quand on veut, au fur et à mesure qu'on débloque des objets. Mais par contre, la quête principale, elle est vraiment à faire dans cet ordre-là. Et une fois qu'on a réuni, qu'on a rencontré les quatre géants, eh bien.
Avengers Assemble.
Exactement, on va pouvoir les appeler, retrouver Skull Kid au bout des 3 jours. Les géants, eh bien, ils viennent supporter comme ça une sorte de déménageur de la lune. Voilà, ils vont la récupérer tel un frigo dans un escalier, donc ils vont la maintenir. Mais Skull Kid, le masque se sépare de Skull Kid et s'envole sur l'autre face de la lune. Et comme voilà, Link, il aime bien aller au bout des choses, on va rejoindre le masque de Majora et c'est le moment de le confronter. Alors on arrive sur cette espèce de petite...
Ah, t'as une immense plaine.
Ouais, de petits jardins d'Éden, ouais. Comme ça, avec des petits enfants à poil, avec des masques comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire ?
C'est
ouais.
Les masques des
oui,
géants.
Oui, des différents... Ouais. Des différents...
Le jeu était déjà très chelou jusque-là. Donc, en fait, on n'est pas si surpris.
Non, c'est
que
vrai
ça,
qu'on est plus surpris à ce moment-là. Et il y a même un des enfants qui est pas bien, hein, qui a le masque de Majora. On sent que voilà, il y a quelque chose qui va pas chez lui. Et du coup, après à lui avoir parlé, on a droit au combat de boss final qui est bien chaud. Il faut le spécifier.
Quoi, t'avais pas les 24 masques et t'as pas fait des trucs de cache-cache pour avoir le masque secret qui te rend Link géant et tu le tapes très fort ?
Non, j'avais pas fait ça, Maxime. J'avais quelques cœurs, j'étais que là, j'avais zéro quête annexe, donc ça a été vraiment compliqué. Merci les save states. Et du coup, une fois qu'on a battu le Majora, ça y est, on a neutralisé la puissance maléfique qui était enfermée dans ce masque. C'était maintenant plus qu'un vulgaire morceau de bois, mais qui est quand même joli, donc on le redonne au vendeur de masques.
De toute façon, c'était le deal hein, au départ.
Exactement. Et puis, tout est bien qui finit bien à
sans
Termina.
Link.
Sans Link, voilà. À Termina, ils peuvent faire leur fameux carnaval du temps. Hein, ouais. C'est l'espèce de truc. Donc, voilà, il y a des hot dogs, il y a des choses, il y a une fête, quoi. C'est la fête foraine. Et puis nous, on se barre parce que on était à la recherche d'un ami et on l'a globalement pas trouvé. Voilà. Donc, on continue notre route.
Ce qui est fou, c'est que Taïel vraiment nous le dit. Nous, on va faire la teuf. Retourne faire tes affaires, tu vois, genre.
Bisous.
Okay. Bisous, ciao, merci.
Il y avait un peu le côté, en plus, Skull Kid. En fait, le Majora's Mask a pu exploiter un peu sa solitude pour le manipuler. Et il se sentait tout seul. Il pensait que les géants l'ont un peu abandonné. C'est l'ami des géants, mais ils sont partis chacun dans leur coin pour pouvoir défendre si jamais il se passait quelque chose dans ces zones-là. Et là, tu apprend que les géants l'ont toujours considéré comme un ami, ils l'ont pas oublié, mais ils lui adressent pas un mot, tu vois, il y a juste Skull Kid fait « Ah, mais j'étais encore votre ami », zéro mot, ils se cassent, chacun les géants, ils retournent dans leur truc.
Comme ça, non, même
pas. Je suis pas sûr, je crois qu'ils se cassent juste chacun dans leur coin.
Ils se sont peut-être envoyés un smus, tu vois, tu sais pas, un petit texto.
Je pense qu'il a compris, mais voilà, en fait, c'est vrai qu'il avait plus la lucidité, et du coup, c'est ça, le masque de Majora a exploité cette faiblesse, et voilà, pour s'incarner dans ce monde-là, et foutre le dawa un peu partout.
On peut noter aussi que dans le générique de fin, a priori, on a aidé tout le monde, enfin, il y a un côté un peu paradoxal, puisque c'est des actions qu'on a potentiellement réalisé ou pas, mais en tout cas avant, dans d'autres cycles, parce qu'on peut pas...
Quand on remonte le temps, et par exemple on a fait la zone des Gorons, tout est annulé. Donc ils ont encore le même problème.
On garde les masques qui vont permettre d'appeler, et on se souvient de la musique qui va permettre d'appeler les géants, mais on a un petit générique de fin où voilà, les Gorons il fait chaud, chez les Mojo c'est plus empoisonné, donc tout est
en
bien
fait,
qui finit bien.
En fait, tout a été solutionné, alors que justement au cours du jeu, à chaque fois qu'on solutionnait un problème, on obtenait quelque chose, et on revenait dans le temps, et le problème problème était de nouveau là. Et en fait, non, ça marche. Donc, merci, voilà, merci Link, mais voilà, les gens ne sont pas si sympas avec lui. Et pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est un jeu qui est... Non, c'est un jeu qui est assez sombre, en fait. C'est vrai que vraiment, comparé à Ocarina of Time, qui avait vraiment... Bah, c'est vraiment le récit héroïque, voilà, Link, le héros du temps, machin, on devient adulte, on revient, alors on revient aussi de temps en temps enfant, mais il y a une espèce de récit initiatique, de sauver la princesse et compagnie, c'est vraiment classique de chez classique. Là, Ocarina of Majora's Mask, pardon, c'est complètement différent, on n'est pas du tout sur cette même ambiance. Dès le début du jeu, on a l'impression vraiment que le jeu nous crache un peu à la gueule si t'as fini Ocarina of Time. Là, on te transforme en peste mojo, donc t'es vraiment... pestiféré littéralement dès le début.
Le premier petit monstre le plus basique qu'on croise dans Ocarina. Et puis, on l'avait noté, il y a vraiment une espèce de déconstruction du héros parce que, bon, t'es le héros du temps, la Triforce, la princesse Zelda, le monde, l'univers, etc. Et là, t'as juste un type qui te fait tomber de son cheval et ça y est, c'est foutu, quoi.
Ouais, t'es complètement bolossé dès le début. Et surtout, bah, c'est vrai que tous ces trucs-là, on va pas les retrouver. Hein. Zelda, Ganon, tous ces
grands... Ouais, non, le canon habituel de Zelda n'y est pas.
Et dès le début, tu parlais de l'ambiance, mais ouais, t'as le rire du Skull Kid, la musique aussi assez oppressante, et le moment où on se transforme en mojo, il y a un côté un peu un délire, tu vois, où t'as plein de petits mojos autour de toi qui avec les yeux qui brillent, puis t'as un mojo géant, enfin tu vois, il y a une séquence assez spéciale.
Ouais, c'est le jeu
très cauchemar, hein.
Ouais, oui. Dès le début, le jeu a une tonalité vraiment dérangeante, et j'imagine que pour les gamins de l'époque qui avaient il y avait quand même des séquences qui pouvaient un petit peu effrayer dans Ocarina of Time, il y avait déjà les effrois, il y avait des trucs comme ça, mais là, en plus, tu commences un jeu, quand tu commences Ocarina of Time, tu sais, c'est positif, t'es à la forêt Kokiris et tout, tu sens qu'il y a une espèce de souffle de l'aventure. Là, pas du tout, le jeu, il te met une grosse torgnole dans la gueule, il dit, maintenant, t'es une mojo, t'es une merde, et c'est moche ici, et du coup, vraiment, tu sens que c'est... Tu sens globalement c'est la tristesse, et en plus, très vite, du coup, tu vas comprendre que, bah voilà, dans 3 jours, c'est la fin du monde. Et voilà, c'est bienvenue chez nous.
Et tu ne comprends rien à l'univers où t'es, parce que bon, le monde de Termina, on sait pas. Hein. Évidemment, là, on est vraiment dans de la spéculation, mais ça peut être un monde parallèle, ça peut être vécu comme un rêve, un truc un peu surréaliste. Il va falloir découvrir tout. Moi, j'avais noté typiquement dans les éléments qui sont super dérangeants, parce qu'en refaisant le jeu, là, ça m'avait vraiment marqué, la façon dont le marchand de masques nous parle. En fait, entre deux dialogues, il va se téléporter et il va changer d'animation.
Ouais, c'est des
cuts. Il n'y a pas de lien, c'est vraiment des cuts.
De montage.
Donc, à la fois, c'est un petit, je pense, tu vois, c'est... Ils préfiguraient les youtubeurs, parce que montage cut, mais surtout c'est vraiment flippant quand il parle ça, parce qu'il a cette façon de se déplacer. Et moi je l'ai toujours trouvé chelou, de toute façon, ce marchand de masques.
Bah, et puis même la façon dont il nous traite, il te secoue littéralement comme ça. Il est assez ambigu, c'est pas un personnage. Déjà, il fait un deal avec toi, donc c'est pas forcément c'est pas juste un mec qui veut t'aider comme ça par bonté de cœur. Et il est ambigu, quoi.
Ah, et puis bah, il vend des objets qui sont capables de faire ça, parce que c'est lui qui avait le masque de Majora qui cause tout ça, donc tu dis, il a beaucoup de pouvoir en fait en lui.
Et puis donc il y a la fin du monde littéralement qui menace d'arriver. Donc déjà, cette lune avec cette tronche si particulière qui est devenue vraiment iconique, hein, je pense. C'est même moi, je me souviens encore une fois là dans mes catalogues quand je regardais les images du jeu, c'est marquant,
c'est
en fait. Cette lune qui renvoie un peu à celle de Georges Méliès, hein, avec ce visage gravé dessus, mais elle a vraiment un sourire comme ça, dérangeant, machiavélique,
elle
un truc
les
qui
yeux
va
exorbités. En plus elle tombe avec son gros nez, c'est vraiment flippant, quoi.
Puis elle se rapproche de plus en plus, il y a différents spots du jeu où tu peux la voir sous un angle différent, non, ça te rappelle souvent qu'il y a cette menace.
Il y a ces fameux écrans noirs aussi où tu sais, à chaque jour quand tu changes, tu vois, le côté Law and Order, voilà. Voici leur histoire.
Et puis même, c'est vrai que cette fin du monde qui arrive, tu sens aussi que tout le mal qu'a causé Skull Kid, parce que c'est vraiment le bordel de partout, il y a vraiment plein de problèmes à gérer, et il y a des histoires même assez tristes. Je me souviens dans la région Ikana, là où il y a le papa, je crois, qui a caché sa fille, ou genre il l'a transformée en zombie.
Non, c'est lui, il se transforme en zombie et il s'est enfermé dans une espèce de frigo ou d'armoire, je sais plus trop quoi, pour protéger sa fille,
voilà,
mais qui est du coup un peu toute seule dans le village où il y a des zombies, quoi.
Ouais, donc c'est un peu déprimant. Il y a aussi cette histoire, donc ce fameux couple là qui a été séparé, dont le garçon a été enfermé dans un corps d'enfant. Du coup, bah voilà, ils peuvent pas se côtoyer comme avant. Et puis, bah dans toutes les régions, il y a vraiment des problèmes de partout. Et on sent que, bah voilà, dans 3 jours, tout ça va être fini. Finalement, est-ce que ce n'est pas le mieux que tout se termine voilà, quand le monde va si mal? Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut qu'il
le
se passe?
Le défaitisme.
Non, mais tu sais, moi, l'anti-héro. C'est vrai que quand je suis arrivé dans le jeu, je me suis dit, et pourquoi pas finalement? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'on peut pas
attendu.
Accepter son destin que ça
t'as
se
trop
termine,
joué à Outer Wilds, c'est ça?
Ouais, 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 c'est vrai, effectivement, il y a un petit peu de ça. Et puis, pour vraiment terminer sur les trucs déprimants, bah, il y a une présence de la mort et de la thématique voilà, de tout ce qui est autour de la mort qui est très très présente, puisque, eh ben, a priori, les masques qui nous permettent de nous transformer, ce sont les âmes de personnages morts. Alors pour la Mojo, on ne comprend pas très bien parce qu'il y a cette séquence voilà, un petit peu surréaliste, on ne peut pas forcément se dire ok, c'est un personnage qui est mort, mais par contre, avec le Goron, bah, c'est un fantôme qu'on côtoie, donc voilà, il est mort. Et ensuite, le Zora, bah, il meurt littéralement devant nous, là, sur la plage des Zora. Alors évidemment, il fait un petit solo de guitare avant parce que voilà, c'est stylé. Mais après, il meurt vraiment devant nous et c'est comme ça qu'on récupère le
masque. Et ils ont des regrets, en fait, parce qu'il faut jouer la chanson Song of Healing, ouais, en anglais.
Du soin, peut-être.
De l'apaisement.
Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut apaiser leur âme pour ensuite avoir ce masque. Donc oui, à ce côté, ils sont morts. Et en plus, ils essayaient d'accomplir quelque chose où ils n'ont pas pu, en fait, aller au bout un petit peu de leur quête, donc il y a un côté assez triste. Pour revenir un petit peu sur le Mojo, effectivement, au début tu comprends pas du tout, mais après, en fait, tu vois au tout début quand même, tu tombes sur une espèce d'arbre bizarre, un peu déformé, tu sais pas trop ce que c'est. Et dans le générique de fin, tu vois le majordome Mojo qui t'avait déjà parlé de son fils et tout, il aimait bien faire la course avec, et il est à côté de ça, donc en fait, tu te dis c'est probablement son enfant mort qui était dans la forêt. Enfin, c'est vrai qu'il y a cette ambiance assez particulière, et en plus de ça, pour revenir au côté. Ambiance, je viens de le dire, mais quand on met les masques, il y a vraiment un côté très bizarre. Il y a le fond qui change de couleur et juste, enfin, t'entends des craquements, enfin, tu sens le corps qui se transforme. Et Link, il hurle en fait quand il met un masque. Et quand il met le visage, en tout cas, le Goron, c'est celui qui marque le plus, mais son visage, il est vraiment crispé par la douleur, quoi.
Ouais, c'est un peu le cri de Munch, hein, littéralement, quand il met les trucs. Tu sens qu'il y a vraiment une souffrance en fait qui est là quand on met le masque et quand on l'enlève et tout. Et même en plus, moi, au début du jeu, je savais pas qu'on pouvait forcément skipper. Oui. Tu sais, on peut appuyer sur A pour que ça aille plus vite, mais du coup à chaque fois tu prends cette espèce de cri dans la tronche.
Faut quand même switcher régulièrement, donc tu passes souvent de Mojo à humain, puis après bon t'enchaînes avec Goron, Zora.
Mais je trouve que c'est vraiment important dans les thèmes du jeu ce que tu racontais là, Maxime, sur le fait que tu vois c'est des choses qu'ils ont pas accomplies, des choses qu'ils ont, il y a un truc de regret, de mélancolie, de presque de désespoir même chez certains. Et en fait, bah, Link va porter le poids
il enfile le masque
et il récupère un peu leur fardeau entre guillemets, et du coup il faut, bah voilà, c'est à nous de régler le problème, d'apaiser en fait la situation un peu partout. Donc il y a vraiment cette dualité entre un monde qui est un peu malade, qui est en souffrance un peu partout, et nous on va être l'incarnation de l'apaisement. Mais c'est un truc qu'on pourra témoigner que nous mêmes puisque à chaque fois, comme on le disait, c'est à chaque fois qu'on revient en arrière dans les cycles, bah tout ce qui a été défait, en tout cas jusqu'à la fin avec le masque de Majora, quoi. Et ce qui participe aussi évidemment à cette ambiance, eh bien, c'est la musique assez particulière de ce Majora's Mask. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie que Fanny nous a préparée et qui va décortiquer tout ça maintenant.
Bonjour à tous et à toutes, et merci à l'équipe de me passer le micro. Alors dans un premier temps, on va parler un petit peu de technique, parce que ce qui est intéressant dans Majora's Mask, c'est la façon dont il se place dans la ligne directe d'Ocarina of Time. Bon, c'est pas une grosse surprise, c'est deux jeux qui sont sortis sur Nintendo 64, donc d'un point de vue sonore, ils vont être très proches sur certains aspects. La principale chose qui a changé avec l'arrivée de cette console, c'est que contrairement à la Super NES, la NES, et toutes les autres consoles sur lesquelles étaient sortis les Zelda précédents, la Nintendo 64, elle n'a pas de processeur qui est dédié au son. Donc ça veut dire que dans la console, il n'y a rien pour faire tourner le son. Tout doit être embarqué directement dans les cartouches. Donc les moteurs sonores qui doivent faire tourner le son, les données nécessaires pour faire du son, tous les MIDI, tous les fichiers, peu importe leur format, vont devoir tenir dans la cartouche. Mais du coup, la gestion du son, une fois programmée dans le jeu, va devoir être partagée avec le reste des tâches. Par exemple, les deux processeurs de la console ne servent pas spécialement à faire du son, mais ils gèrent aussi l'animation, les intelligences artificielles, etc. De fait, les développeurs vont devoir se montrer astucieux pour que la gestion du son n'impacte pas certains paramètres du jeu. Par exemple, si techniquement on peut faire jouer plus d'une centaine de voix à la fois sur la console, si on le fait, ça va vraiment être au détriment du reste, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un super son, mais ça va causer des ralentissements, du clipping ou des intelligences artificielles complètement aux fraises. Ce qui fait qu'en général, on a réduit à 16 le nombre de sons simultanés pouvant être joués par le jeu. Alors, c'est une variable qui n'est pas fixe, mais elle représentait alors une sorte de moyenne pour éviter que la musique ne pose de problème. Du coup, ça amène aussi une autre évolution, autant dans Ocarina of Time que dans Majora's Mask, c'est que Kondo, Koji Kondo, qui est jusqu'à présent se chargeait d'à peu près tout, en tout cas sur les épisodes NES et Super NES, lui va plus du tout toucher à la programmation qui est devenue bien trop complexe. Donc il va y avoir une personne qui est embauchée spécialement pour faire ça, tandis que lui, de son côté, va se concentrer uniquement sur la musique. Donc ça amène un deuxième autre gros changement dans la répartition des tâches au sein du secteur son de Nintendo, c'est qu'on va aussi embaucher un spécialiste des effets sonores. Là aussi, c'est un gros changement, parce que jusqu'à présent, tout ça, c'était géré par les mêmes personnes. C'était Koji Kondo qui faisait tout. Là, ça s'est terminé également. Donc, on va avoir une séparation officielle entre sound design, musique et implémentation qui va se faire pour la première fois avec Ocarina of Time et Majora's Mask. C'est aussi causé par le fait que la voix fait son entrée. Donc, il y a des bruitages qui, jusqu'à présent, étaient très musicalisés, qui vont être remplacés par des voix et qui vont intégrer des notions comme la randomisation. Par exemple, le tout premier jeu qui a fait ça sur cette console, en tout cas développé en interne, ça va être le Mario 64, où la voix de Mario était randomisée quand il sautait, donc on n'avait jamais le même son, ou en tout cas on avait une série de sons qui tournaient en boucle, et ce même principe a été repris dans Ocarina of Time, puis Majora's Mask, pour tout ce qui est saut, coup d'épée, bruit de douleur, etc. Donc ça, c'était un autre changement qui demandait d'avoir d'autres compétences, comme celle de diriger des acteurs ou des employés réquisitionnés pour être acteurs en studio chez Nintendo, qui ont donné naissance à des sons qui aujourd'hui sont quand même restés dans les annales. On va par exemple se souvenir évidemment de Tingle, son Kululimpa, qui est particulièrement agaçant, mais qu'on va lui pardonner, puisque c'est un personnage qui est une caricature de Koji Kondo, qui fait sa première apparition dans Majora's Mask. En répercussion en fait, de cette utilisation de la voix qui va être augmentée et de ce besoin d'avoir des textures plus définies avec de plus en plus de variété dans les sons, évidemment la quantité de sons qui va être intégrée dans le jeu, elle va totalement s'envoler. Ça veut dire que Majora's Mask a le double quasiment de sons intégrés dans le jeu par rapport à Ocarina of Time. Alors ça peut sembler peut-être du détail, mais il faut savoir qu'Ocarina of Time, d'après Yoji Inagaki, qui était le programmeur des effets sonores sur les deux jeux, Ocarina of Time avait 1200 sons, alors que Majora's Mask, en lui, en avait plus de 2000, ce qui est absolument énorme pour un jeu Nintendo 64 à l'époque. Exemple tout bête, une animation d'explosion va pouvoir avoir jusqu'à 20 sons différents selon les textures des objets, les objets en eux-mêmes, est-ce que c'est un tonneau qui explose, est-ce que c'est une porte, est-ce que c'est un objet métallique. Voilà, toutes ces choses-là qui n'étaient pas forcément très influentes avant vont avoir beaucoup plus d'importance. Enfin, le sound design c'est bien joli, mais qu'est-ce qui se passe du coup aussi du point de vue purement musical ? Eh bien, du point de vue musical, c'est la plus grosse bande originale de la carrière de Koji Kondo à l'époque. Il a écrit plus de 90 morceaux pour le jeu. Au final, en comptant les jingles, etc., on est même plutôt sur 110 morceaux, avec quand même un peu moins d'une trentaine qui vont être repris de Ocarina of Time à la base. Et du coup, ça représente quand même une quantité de musique assez incroyable quand on voit qu'il y avait avant plutôt une trentaine, quarantaine de morceaux pour un jeu. Donc là, on double quasiment la quantité, c'est énorme. Du coup, autre gros changement, après toutes les séparations de postes qui s'effectuent chez Nintendo, on lui assigne enfin un autre compositeur qui va venir en music support, donc qui va venir en support de la composition musicale, qui est Toru Minegishi, qui arrive après des débuts sur Pokémon Stadium. Alors, il va pas avoir un rôle extrêmement important, Minegishi, dans le jeu. Il écrit au total 3 morceaux, qui sont des morceaux pour les combats contre des ennemis standards, des mini-boss et puis des boss de donjons. Mais en fait, il va vraiment amener une évolution qu'on va après beaucoup plus sentir dans Wind Waker et dans les épisodes qui vont suivre, qui est la mise en retrait de Koji Kondo et l'apport de d'autres compositeurs avec une griffe différente
qui vont vraiment venir compenser certains manquements qu'il va avoir. Par exemple, Koji Kondo se sent pas forcément très à l'aise avec l'utilisation des percussions et des cuivres. Il a même des difficultés à écrire. Il suffit de regarder le thème de combat de Karin of Time, qui n'est pas non plus la plus originale de toutes ses compositions. Et là, Toru Minegishi, qui est aussi un peu un musicien auto-formé, arrive avec une très grande attirance pour tout ce qui est percussion et cuivre, et donc il va composer des pièces beaucoup plus dynamiques, avec beaucoup plus de variété dans les sons qui sont utilisés. Et donc ça va faire une différence très notable, qui va lui valoir de revenir sur quelques épisodes par la suite. Maintenant, si on se penche un peu plus sur l'analyse vraiment des musiques, même si le titre a un côté très sombre, malsain et anxiogène, on va retrouver aussi beaucoup de choses qui font l'identité des jeux Zelda d'un point de vue purement musical. Déjà, un des plus importants, ça va être le pouvoir des instruments de musique qui existe depuis le tout premier épisode et qui ici va prendre une place d'autant plus importante car bon, ils remplacent comme d'habitude les sorts qu'on peut jeter, mais en plus ils sont porteurs d'une symbolique, de plusieurs symboliques même, qui vont être beaucoup plus lourdes étant donné les thématiques du jeu. Ici on va avoir de la musique qui blesse à une échelle beaucoup plus grande, avec le moulin de la vallée Ikana qui se met en route et puis qui fait disparaître les effrois momifiés. On va voir le fantôme du puits avec l'histoire de la lutte entre les frères Diaz et Bémol, où on va être poursuivi et où Link va être blessé par le son que crée un personnage, et lui va pouvoir, en jouant un autre thème, se venger, ou en tout cas apaiser le personnage. Et puis on va avoir surtout de la musique qui soigne et qui va avoir un rôle guérisseur qui est quand même assez important. Du coup, évidemment, on va avoir de nouveaux thèmes emblématiques importants. Ici, on ne peut pas ne pas citer le thème de Majora et le chant de l'apaisement, qui sont antagonistes dans cet épisode. Le thème de Majora, tout d'abord, est celui qui vient remplacer celui de Ganon. Parce que Ganon, et là c'est une des grosses différences de Majora's Mask, il n'est pas entendu tout le jeu. D'habitude, dans un Zelda, quand il y a Ganondorf qui n'est pas présent, on va quand même avoir des petites références qui laissent planer le doute. Est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là? Là, il n'existe pas, il n'est pas cité à aucun moment, y compris musicalement. Et donc il va falloir imposer un thème de méchant très fort, et ça va être ce fameux thème de Majora, qui est donc une mélodie extrêmement torturée autour de chromatismes, de petits intervalles très spéciaux, très proches, qui vont faire des frottements dans le son, et qui en plus vont être joués avec des instruments un peu nasillards. Ça va donner un côté très bizarre au personnage de Skull Kid qui porte le masque de Majora. Et en face, on va voir le chant de l'apaisement qu'on rencontre dès le début du jeu, qui va sauver Link, et que Link va ensuite utiliser pour sauver, ou en tout cas mettre fin aux souffrances d'un certain nombre de personnages pour gagner des masques, qui va être donc un des thèmes diégétiques majeurs du jeu. Alors pour rappel, tout ce qui est diégétique, c'est ce qui va appartenir au pouvoir de la narration, donc c'est-à-dire c'est ce que Link peut jouer lui-même, qui va être entendu par les autres personnages, et ça va s'opposer à l'extra-diégétique, où là ça va être tout ce qui concerne la musique qui accompagne nos pérégrinations, qui elles ne sont pas spécifiquement entendues par les personnages du jeu. Donc le chant de l'apaisement, il va ponctuer très régulièrement le jeu, il va servir à représenter le marchand de masques, qui lui va donner toute la mécanique de mode d'obtention des pouvoirs de Link. Il va aussi définir sa relation au personnage, c'est un thème qu'on va utiliser pour interagir avec des personnages, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans Ocarina of Time à l'époque. C'est-à-dire que Link joue ce thème, les personnages vont lui répondre, et donc la musique va vraiment être un déclencheur de ces interactions. Et puis tant qu'on parle du chant de l'apaisement, un petit trivia plutôt intéressant par rapport à ce thème, c'est que les 6 notes qu'on doit jouer à l'ocarina pour le déclencher sont en fait un inversement exact du thème des bois perdus. Donc c'est les 6 premières notes jouées à l'envers vont faire le thème des bois perdus. Ce qui est aussi intéressant, puisque ça va aussi créer un lien en fait avec l'ennemi principal, enfin le premier ennemi principal du jeu, qui est Skull Kid, qui est évidemment manipulé par Majora, mais qui est un personnage qu'on rencontre dans les bois perdus, qui vit dans les bois perdus. Mais comme on est dans un Zelda, évidemment, on ne peut pas se satisfaire de faire uniquement des nouveaux thèmes, et donc on va évidemment retrouver des thèmes très importants, à commencer par le chant du temps d'Ocarina of Time, qui va là occuper une place beaucoup plus importante que dans Ocarina of Time, où il servait grosso modo juste à ouvrir une porte et à faire apparaître deux, trois grosses pierres comme plateforme. Là, c'est aussi un des autres thèmes diégétiques majeurs, où on va pouvoir remonter le temps, l'accélérer, et le ralentir en utilisant ce thème. Donc c'est vraiment un héritage d'Ocarina of Time, et c'est un des rares et même des seuls jeux de la série qui crée une filiation directe avec le jeu précédent, et pas juste une référence ou un clin d'œil. En plus du chant du temps, ce qu'on va surtout relever pour terminer cette chronique, c'est un retour du thème de l'Overworld. Et ça, c'est plutôt intriguant parce que dans Ocarina of Time, Koji Kondo s'était éloigné de ce thème. Il le transformait en une citation extrêmement simplifiée qui était à peine reconnaissable dans le thème de la plaine d'Hyrule. Mais là, dans Majora's Mask, au contraire, il va non seulement reprendre le thème original de la série qu'il va minoriser au début, mais il va aussi reprendre la version simplifiée qui est entendue dans Ocarina of Time et qui est donc très différente. Et si je vous dis ça, c'est parce que ce thème va en fait avoir deux fonctions dans ce jeu. L'une va être la reprise mineure de l'Overworld qui représente le voyage à Termina, mais le thème est aussi repris sous la forme d'un jingle pour symboliser les actes héroïques de Link. Et ça, en fait, c'est une ébauche de la séparation future, d'une espèce de dichotomie parmi le thème de l'Overworld et qui va arriver dans tous les autres jeux de la série. On va avoir d'un côté la figure personnifiée du héros et l'exploration du vaste monde qui n'est pas toujours Hyrule. On va donc se quitter sur l'écoute de ce morceau et moi je vais repasser le micro à mes hôtes en vous souhaitant une bonne fin d'émission.
Ben nous aussi, on remercie Fanny pour son travail, pour cette capsule qui nous a appris plein de trucs. En plus, c'est vrai que nous-mêmes, en discutant avec elle, on a pu découvrir plein de choses sur la musique de Zelda. Donc, merci beaucoup, Fanny. Et maintenant qu'on a parlé de l'ambiance qui est vraiment unique de ce Zelda, on va passer à son deuxième aspect vraiment qui le définit en tant que jeu. C'est cette fameuse construction autour de cette boucle de 72 heures. Alors, 72 heures en temps Zelda, en vrai, ça dure 54 minutes. Et si on a accélère, je sais plus si c'est le double ou le tiers, mais voilà, ça dure pas 72 heures parce que bon, le jeu en vrai faut 20 heures pour le terminer si on est vénère.
Non, mais de toute façon c'est normal, on peut pas avoir un temps tu vois du 1 pour 1, ça serait trop compliqué.
Ce serait pas génial.
Il y a des jeux où tu peux le faire, hein. Tu vois, t'as des simulations de voiture où tu peux te taper les 24 heures du Mans et ça dure 24 heures. Hein, donc,
Et ça, c'est fin du gameable ou pas?
Ah bah écoute, on va essayer.
Les 24 heures du Mans en fin du game, on vous le promet pas. Donc, pour revenir sur Majora's Mask, cette construction Majora's Mask. Ce matin, c'est un des premiers trucs que je me suis dit, je sais que je vais le faire, le Majora's Mask. Donc, dans Majora's Mask, qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment tout de suite, du coup, cette pression qui est mise sur nos épaules avec ce timer donc, qui est affiché. Hein, en bas de l'écran, il y a ce petit cycle-là des 3 jours. Et même à la fin, les dernières heures, il y a un petit timer qui apparaît comme ça et qui nous dit qu'il reste plus que 6 heures avant la fin du monde. Donc, au début, ça peut être un petit peu stressant, on peut avoir une espèce de pression, mais en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, je trouve que ce truc du cycle, quand on fait un peu confiance au design, comme moi je peux faire confiance à des designers, on se rend compte qu'en fait, y a pas tant de pression que ça, parce que finalement, le temps d'un cycle, même sans l'allonger avec la mélodie du temps ralenti, en fait, on a toujours le temps de trouver la la clé qui va nous permettre de faire le prochain segment.
La clé ou en fait notre prochain, la prochaine chose qu'on gardera en fait, ça peut être soit donc une musique ou peut-être un masque ou un quart de cœur en fait si on fait des catanex. Mais c'est vrai qu'il y a tout. En fait, t'es satisfait si t'as débloqué quelque chose de permanent. Donc c'est plutôt comme ça que tu vas réfléchir, je pense, ta progression.
Ouais, bah concrètement, c'est vrai qu'en arrivant dans une nouvelle zone, alors la première c'est pas forcément le cas puisque t'es déjà le masque de Mojo. Mais par exemple, bah ouais, première zone, ce que tu vas devoir faire, c'est trouver les espèces de petits haricots magiques. Et donc, tu as tout un petit parcours à faire au début pour trouver ce haricot magique. Et une fois que tu as débloqué, entre guillemets, ce haricot magique, tu vas pouvoir faire pousser un petit truc et apprendre une mélodie. Et ce qui fait que maintenant que tu as la mélodie, tu peux revenir 72 heures en arrière et venir directement dans cette zone avec la mélodie et ouvrir le donjon. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'il est construit le jeu. C'est-à-dire qu'on arrive, on fait toute une segment, donc il y a des petites épreuves typiques de ce qu'on va faire dans Zelda. On va devoir parler un truc, faire un peu de plateforme, faire un peu d'action, comprendre un petit, résoudre un petit puzzle. Et ça y est, on obtient une clé qui permet au prochain segment de ne pas avoir à faire ce qu'on a à faire.
Il y a un petit garde-fou aussi au début, puisque tu as en fait un Mojo qui peut te vendre des haricots magiques, mais pas tant que tu sais pas ce que ça fait. Donc ça veut dire que en fait, si jamais tu as eu le haricot magique mais que t'es pas allé jusqu'au bout, que t'as pas eu le temps machin, c'est aussi un checkpoint en fait, parce que toi tu vas pouvoir le voir et t'as la connaissance de ce que fait un haricot magique et il te le vendra, comme ça tu perds pas trop de temps quoi.
Et tout ça en fait, dès le premier cycle, il nous apprend finalement à dédramatiser la menace du temps, puisque assez tôt on peut obtenir, donc on va avoir plusieurs actions à faire, on va avoir le fameux c'est le titre de propriété qui permet de demander à la peste Mojo de se casser et du coup de débloquer l'accès à la tour. Et si on arrive à la tour avant minuit du troisième jour, ce qui nous laisse quand même pas mal de temps, on est large, même sans Solus on peut y arriver, la fée nous dit ah bah non, c'est trop tôt, il faut revenir. Et au moment où c'est l'instant où on peut ouvrir enfin la tour, on a le droit à une super cinématique qui nous montre comment la tour elle s'ouvre, etc. Donc le jeu nous fait bien comprendre qu'on a finalement le temps. Et bien sûr il dédramatise tout, puisque à la fin du premier cycle, comme on récupère le champ du temps, on a nous ce pouvoir à tout moment de décider bon bah là tant pis, je recommence. Ce qui fait que même si on a mal planifié par exemple son cycle de jeu, on peut le recommencer à tout moment, c'est pas grave quoi.
Et même si tu rates et que la lune s'écrase, je crois que tu reviens juste au vendeur de masques, hein. C'est un peu comme si t'avais joué la mélodie du temps quoi, finalement.
Oui, il n'y a pas de game over définitif, c'est pas un roguelike, hein. Faut pas déconner, ils en sont pas à ce point là
non. Mais ce que j'ai trouvé quand même réussi, et en fait moi j'avoue que Majora's Mask c'est toujours un jeu qui m'a impressionné, tu vois. Je me suis dit ah, ça doit être une grande horloge, il faut refaire plein de trucs et compagnie. Et vraiment pour la quête principale, en fait pas tant que ça. C'est un jeu qui est finalement assez linéaire, même, parce que vraiment tu peux pas accéder à un truc tant que t'as pas accédé à celui qu'il faut avant. C'est vraiment une séquence d'objets, une séquence d'actions à faire et à obtenir. Et à chaque fois c'est pareil, chaque zone c'est en général c'est le masque, ensuite t'as la musique, après peut-être au milieu, avant ou après, il y aura un objet un peu spécifique, ça peut être le grappin, le machin comme ça, et après tu fais le donjon, et ça y est, c'est bon, une fois que tu as récupéré le donjon, tu parles au géant, et tu sais appeler ce géant-là.
Et en général, tu sais dans quelle direction il faut aller, parce qu'on l'avait dit, la fée te dit tout de suite, il faut aller au marais, et même, je crois que la fée qui est avec toi te dit, c'est tout droit, c'est là-bas, tu vois. Donc,
elle te dit, c'est au sud, c'est au machin, tu peux acheter les cartes auprès de Tingle assez rapidement, donc tu peux voir aussi dans quelle direction te rendre. Donc là, le jeu, de toute façon, il te donne un max d'indications, alors pas toutes, mais il t'en donne quand même beaucoup pour que tu saches quand même globalement quoi faire.
Ouais, je trouve que contrairement, autant je trouve dans Ocarina of Time, il y avait quelques moments dans le jeu où tu peux être vraiment perdu parce que il faut aller faire un truc à Pétaouchnok, genre pour récupérer les flèches de feu, et genre c'est ça qui te bloque dans un donjon, un truc comme ça. Enfin, il y a des cassures comme ça dans le jeu, alors que là dans Majora, il y en a pas tant que ça. Globalement, ça se passe dans les différentes zones. Le seul moment où j'ai un peu bugué, c'est le moment où il fallait récupérer Epona, parce que j'avais compris qu'il fallait faire ça, mais je savais plus forcément comment y accéder. Donc évidemment, j'ai quand même fait appel à une Solus de temps en temps, je dois le dire. Mais globalement, c'est vraiment linéaire, et comme tu n'as pas vraiment cette liberté d'aborder le jeu dans tous les sens, ça se passe globalement bien pour aller au bout, quoi.
Ouais, ça évite d'ajouter au stress lié au temps l'espèce de on va dire de de frayeur que apporte trop de liberté. Parce qu'on le sait, hein, quand il y a un jeu qui vous dit, bon, bah, allez où vous voulez, vous voyez, vous lancez Skyrim, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction, ça peut être un peu effrayant. Là, comme le jeu nous balise le truc, on se dit, bon, bah, de toute façon, vu que le jeu, il dure tant de temps, ils ont dû prévoir pour que ça soit possible. Le fait d'avoir le champ du ralentissement du temps, c'est optionnel. Donc, ça peut aider, mais c'est pas obligatoire. Donc, évidemment, le jeu est prévu.
Ça facilite quand même vraiment la vie.
Ce que je veux dire, c'est que tu peux faire sans.
Oui,
donc,
tu peux faire sans.
Le jeu reste potentiellement faisable dans un cycle sans ralentir le temps à chaque fois.
Et d'ailleurs, même les donjons sont assez bien foutus parce que si alors les faire en une fois, c'est compliqué, je pense, sans le champ de ralentissement du temps. Faut bien gérer. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que dans chacun de ces donjons, tu vas pouvoir découvrir l'objet important du donjon. Alors, dans ceux-là, c'est que des flèches. Hein, c'est flèches de feu, flèches de glace et flèches de lumière. C'est ça, l'objet du donjon. Mais si dans un cycle, tu arrives à atteindre les flèches et que tu recommences le cycle, tu vas pouvoir retourner dans le donjon, équiper des flèches qui vont te permettre de skipper justement toute une presque une moitié du donjon et du coup passer ton cycle à essayer d'aller jusqu'au boss et battre le boss. Donc ils ont quand même, je trouve qu'ils sont quand même, tu sais, à l'époque, je sais pas si on faisait autant de playtests qu'on en fait maintenant, je pense pas, mais je trouve qu'ils sont quand même pas mal démerdé pour calibrer les donjons dans leur durée et dans les trucs qu'ils demandent pour que ça reste dans le timing. Je trouve qu'ils sont bien démerdés là-dessus.
Bon, ils en faisaient beaucoup quand même, hein, parce que de toute façon, ils ont dû énormément jouer au jeu. On peut le dire, c'est un jeu qui potentiellement, tu vois, aurait pu avoir des bugs, des machins, parce que bon, on parle même pas en plus d'un... C'est pas des jeux qui sont gravés sur un CD, où ça coûtait quand même énormément... ça coûtait beaucoup moins cher, justement, que les cartouches. Donc bon, quand tu envoies la fabrication de ta PCB de Majora's Mask, tu te dis, faut pas faire de merde, ouais. Faut que le jeu, il tourne, quoi.
Ah, il y avait pas de patch à l'époque? On pouvait pas patcher?
Non,
patch,
non,
pas patch Day One.
Non, il y avait pas ça. Non, c'était une feature, hein. C'était, quand il y avait des bugs, c'était des features.
Là-dessus, c'est vrai que de toute façon, c'est quand même Nintendo en général, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. C'est le Seal of Quality, tu sais, le petit.
Ben, oui, non, mais c'est vrai que c'était. Bon, on ne va pas revenir sur cette histoire-là, mais ça permet de garantir que tu vas avoir une expérience qui est cool. Et là, dans le cas d'une boucle temporelle, c'est d'autant plus important que s'il y avait, à chaque fois que tu recommences un cycle, un PNJ qui ne se passe pas au bon endroit ou un script qui ne se lance pas, tu vois, genre une quête, je sais pas, imaginons le postier, il arrête de courir.
Ouais.
Tu vois, le marathonien, il est pas en train de courir, ça pourrait foutre la merde dans l'histoire, en fait.
On peut peut-être revenir un petit peu justement sur ces fameux donjons. Alors il y en a beaucoup moins entre guillemets dans celui-là, parce qu'il y en a que 4, alors que dans Ocarina il me semble qu'il y en a 8, je crois.
Oui, c'est que t'as les versions en fonction de l'époque où tu y vas aussi.
Non, t'as les 3 premiers, après t'en as un 4e. Non, c'est vraiment 8 donjons différents.
Ça fait longtemps que j'ai pas
fait. Non, c'est... Désolé. Pas les époques. Non, il y en a 8. Enfin, je suis quasiment sûr. Et là, c'est vrai que, bon, je sais pas, est-ce qu'on est des experts ici sur les donjons Zelda? Est-ce qu'on a des...
Non, parce que vraiment, les donjons de Ocarina of Time, je m'en souviens pas, mais pour Majora's Mask, en tout cas... en fait, l'accès aux donjons, c'est déjà une petite énigme, petite épreuve en soi. En général, il faut... pouvoir choper. En général, tu as le masque avant qui va te permettre de débloquer la chanson qui te permettra d'ouvrir le donjon. Donc déjà, il y a tout un truc à faire.
Ça, c'est un gros classique, hein, parce que déjà dans Link to the Past ou dans Link's Awakening, l'accès au donjon est toujours en soi une petite boucle de gameplay. Et après, les donjons, en fait, c'est vraiment des donjons 2D transposés en 3D. C'est-à-dire qu'on retrouve... c'est-à-dire qu'il y a le côté vertical et tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve cette logique avec la carte,
la
boussole,
bien sûr, c'est la formule,
la clé du boss, les petites clés pour les petites
portes,
etc.
Mais tu vois, ils ont
tout eu, etc.
Alors le premier est assez simpliste, il n'y a pas grand-chose à en dire, mais après, ils ont chacun des idées. T'as celui du goron, avec cette grande tour de glace au milieu, où il va falloir arriver à caler des espèces de palais comme ça dans cette tour pour arriver à accéder aux différents bons étages. C'est une pas mauvaise idée, je trouve, cette structure. Et puis t'as celui du Zora avec une turbine au milieu, et tu vas devoir inverser des flux d'eau pour pouvoir aller dans une direction ou une autre. Ces deux donjons qui m'ont assez plu dans leur construction, je trouve qu'ils sont assez malins. Par contre, il y a le dernier donjon là, des trucs d'Ikana, où tu dois utiliser la mélodie pour créer des clones là. Et après, le donjon, alors il y a un truc un peu foufou, c'est-à-dire qu'il se retourne sur lui-même, c'est-à-dire que ce qui était au plafond, ça devient le sol, etc. Donc il est quand même assez ambitieux. Par contre, ce qui est hyper relou, c'est que là, le pouvoir qui te permet de faire les clones, c'est une mélodie. Et du coup, il faut jouer la mélodie à chaque fois. Donc, parfois, tu comprends pas, tu te trompes, machin. Et c'est chiant. C'est vraiment ça.
Ouais, c'est très fastidieux.
Ça,
hein,
là,
façon,
vraiment, ce donjon-là, le jeu, je le détestais à ce moment-là. Vraiment, j'étais en haine pure. On était dans une relation de haine pure. J'avoue qu'il m'a vraiment saoulé, ce donjon.
Après, niveau frustration, en vrai, il y a un côté un peu old school où, vraiment, c'est normal de, si tu te plantes, tu vas devoir recommencer parce que tu vas tomber en bas. T'as ça dans le donjon Mojo, il faut que tu passes de fleur en fleur, et en fait, en bas, si tu te plantes, tu tombes dans un truc et il faut te retaper la route, remonter. Et le pire, c'est dans le Goron, parce que le Goron aussi, il y a des phases où tu vas devoir rouler le long de certaines, des petits chemins, et au bout, t'as un tremplin qui va t'emmener loin.
Il y a une sorte de skatepark
c'est facile
rouler,
de sauter à côté.
Avec la maniabilité d'un 64, quoi. Et du coup, et le jeu, il dit non, mais tu tombes, mais il n'y a pas de souci, on te refait faire le chemin, sauf que sur le trajet, en plus de ça, t'as un puzzle qui verrouille la porte derrière toi, donc il faudra le refaire à chaque fois, ce qui est basé sur le temps. Donc les save states, c'est pas mal.
Ah, merci beaucoup à ce moment-là. De toute façon, quand j'étais...
Vous n'avez même pas eu les temps de chargement de l'époque non plus.
Oui, ça c'est possible. Mais tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai regardé, j'ai fait je vais sauvegarder l'état du jeu et après, on verra. Et je suis effectivement tombé.
Il n'y a pas de secret, je veux dire, même aujourd'hui, sur les consoles, j'allais dire la console virtuelle, mais sur les applications Switch où tu peux télécharger de la Super NES et tout, t'as des save states parce que clairement, on n'a plus le même rapport au temps qu'on avait à l'époque. Les jeux vidéo, on est au début des années 2000. Enfin, déjà, ta Majora, c'est ton jeu de l'année. Enfin, tu vois, c'est plus ou moins ça. Donc, tu vas pouvoir y passer du temps. Et même les développeurs partent du principe que les enfants qui y jouent, parce que Nintendo à l'époque cible vraiment des enfants et des ados, ils vont y passer une heure. Le fait que la
persévérance,
boucle, tu sais, le fait que la boucle comme ça, je me disais, le fait que ça dure une heure, c'est un truc qu'on ferait plus aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui ça ferait 22 minutes.
Ouais, plutôt. Ouais,
parce que justement,
on a réduit
le
temps de boucle.
Le temps, et on sait en fait que les gens ont un temps d'attention et un temps disponible pour les jeux vidéo qui est moins grand. Donc on va essayer de réduire les temps de jeu, et ça explique d'ailleurs au passage le succès des roguelikes.
Et aussi on l'avait évoqué avec Breath of the Wild, mais le succès de la Switch, en fait, où souvent des jeux ont été pensés, Breath of the Wild, avec les Korogu, les tours et tout, il a souvent été pensé pour que tu puisses faire quelque chose en 20-30 minutes et qu'après, tu mettes la console en veille et tu fasses autre chose, puisque les gamers, souvent, ils ont des enfants maintenant, pour beaucoup, et que tu parlais de temps disponible, c'est important, le côté... s'enfermer pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est pas possible pour plein de gens en fait.
Ouais, et donc ça modifie, ça vraiment, enfin, faut que les gens le comprennent, c'est que ça joue beaucoup sur la conception des jeux.
Tout à fait.
Quel est le temps moyen qu'on va imaginer pour nos joueurs? Ça, c'est vraiment un truc qui est super important. Et là, on le sait, on le voit, du coup, ils se disent, on peut faire au moins un cycle, c'est 1 heure à chaque fois.
Et tu pouvais pas sauvegarder quand tu voulais, puisque
c'est le système de sauvegarde, c'est un délire.
Ça, c'est un truc qui tend à disparaître aussi.
Oui, ça fait longtemps que ça tend à disparaître. Plus du tout là.
Les points de sauvegarde, il y a tout ce qui est Metroidvania qui continue de les garder parce que ça, c'est vraiment un classique.
Ouais, mais encore, tu vois, souvent ces jeux, ils ont une forme de sauvegarde automatique qui peut te sauvegarder ta progression, et après les points d'apparition, c'est des checkpoints level design, tu vois. Mais
Returnal faisait un petit peu débat là-dessus parce qu'il fallait terminer les boucles, et les boucles étaient longues,
et
des gens n'en pouvaient plus.
Returnal, c'est un jeu qui peut durer une heure et demie.
Et d'ailleurs,
ils
ont corrigé maintenant, c'est possible de créer une sorte de point de lien.
C'est vrai que c'est un bon exemple.
Typiquement, ça a vraiment changé. On n'accepte plus ce genre de choses.
Alors qu'à l'époque, moi, je me souviens.
En fait, on n'y pensait pas. On n'avait pas cette
lecture-là. Je pensais à un truc dans Final Fantasy VII. Alors, rien à voir, mais tu sors de Midgar et donc t'arrives à Calm. Et là, il y a Cloud qui te raconte sa vie. Et entre les deux moments où tu peux sauvegarder de mémoire, quand tu lis tous les textes et tout, ça dure plus d'une heure, tu vois. Et pendant plus d'une heure, t'es là, non maman, je peux pas venir. Ah. Il est en train de raconter son histoire.
Mais moi, tu sais que c'est un trauma, ça. C'est-à-dire et je pense que les gens qui m'ont vu en stream ont dû se dire, putain, ils sauvegardent beaucoup, mais j'ai un stress en moi. Si j'ai pas sauvegardé depuis 20 minutes, je suis pas bien,
parce que moi j'ai le même truc où j'ai en plus, même je fais plusieurs sauvegardes parce que beaucoup des sauvegardes corrompues, dès que je joue à des JRPG ou des trucs comme ça, j'ai 20 fichiers de sauvegarde pour être sûr.
Mais moi passer une heure sans sauvegarder, je suis pas bien du tout.
J'ai le souvenir, c'est une anecdote, je sais plus, je devais faire un truc avec mes parents, je crois, on était en vacances, il y avait peut-être un resto de prévu ou quoi, et j'étais joué à Pokémon, c'était Crystal, et j'étais, je crois, à la tour Pokémon.
Ouais.
Et en fait, t'as le côté, en fait, il faut finir la tour Pokémon, je peux pas sauvegarder.
Ah, tu peux pas sauvegarder ?
Ben, je crois pas, ou j'étais peut-être dans des longs combats.
Parce que Pokémon, c'est un jeu que tu peux sauvegarder, justement, assez régulièrement.
Ouais, mais je sais pas, okay. Alors, bon, peut-être que j'ai exagéré, désolé, papa, maman, mais peut-être que je voulais vraiment finir la tour, mais j'avais souvenir, et je crois que j'avais plus beaucoup de batterie, donc tu pouvais pas, genre, laisser la Game Boy allumée pendant deux heures, parce que quand tu
rentres. Il y avait pas un mode veille comme on a aujourd'hui. Donc, bref, tout ça pour dire que le rapport au temps qu'on a dans ces jeux a vraiment changé, et on se dit, ça fait que 20 ans, entre guillemets, parce qu'on peut se dire c'est pas tant que ça, mais à l'échelle du jeu vidéo,
ouais, c'est énorme.
Ça a tout changé. Mmh. Vraiment, on n'a plus du tout, tout a été réduit en termes de temps. D'autres ont été augmentés, mais vraiment, le rapport qu'on a au temps, on ne peut pas consacrer autant de temps de jeu. Et donc, d'ailleurs, on l'a vu dans la version 3DS,
exactement.
Tout ce qui est téléportation, ça a été bien rapproché. On n'a pas des
chemins.
Sauvegarde
aussi.
Les sauvegardes également. On peut sauvegarder plus régulièrement, on peut sauvegarder plus simplement. On a accès à les pierres Sheikah qui vont nous donner des petites astuces pour pas qu'on ait à ouvrir une soluce ou quoi. Enfin, voilà. Forcément, avec les années qui évoluent, le rapport... Jouer à Majora aujourd'hui sans avoir fait un seul Zelda en 3D, ça peut être un peu compliqué.
Bon, on peut quand même noter, c'est vrai que là, j'y repense, mais même dans la version de base de Majora's Mask, tu pouvais quand même te téléporter à un truc et sauvegarder. Donc, il y avait quand même possibilité de quitter le jeu assez rapidement. On peut nuancer un petit peu ça, mais tous les jeux le permettaient pas. On a parlé de Beyond Good and Evil il y a pas longtemps, c'était pareil, des points de sauvegarde et on pouvait pas se téléporter. Bref. Mais ouais, en termes de grammaire, tu me tendais la perche parce qu'on en avait parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, ça m'a un peu frappé de rejouer à Majora's Mask. Alors moi, j'avais déjà fait Ocarina of Time, alors je l'avais fait sur GameCube, mais à l'époque, j'avais déjà joué sur Nintendo 64 d'amis chez qui on pouvait rester un week-end ou deux et tout. Enfin, je connais un peu Zelda et j'en ai fait d'autres. Mais ça m'a refrappé cette logique, par exemple, de, bon, déjà allumer les torches. Je crois que Majora's Mask, j'ai plus trop l'impression qu'il te l'explique vraiment de but en blanc ou de façon claire. T'as l'impression, peut-être que mon souvenir est pas bon, mais qu'il faut avoir fait Ocarina of Time. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des salles où il faut tuer tous les monstres, ça va te faire apparaître un coffre et dedans t'auras une clé. Et c'est vrai que ça, c'est une logique vraiment propre à Zelda. Alors, je sais que par exemple, j'ai le souvenir d'un Metroid Prime 3 qui fait un peu le même truc dans certaines salles, mais c'est une logique de jeu vidéo. Tu sais, je l'avais un peu oublié en fait. Il y a vraiment ce côté à l'époque, oui, c'était soit flagrant, soit t'es censé avoir un peu la persévérance, tu vois, de tenter des trucs ou quoi, ou Hugo, tu notais, t'as peut-être l'indice sur la boussole où t'as un point quand même sur la carte, et voilà. Mais c'est vrai que la logique, vraiment, buter tous les ennemis qui sont. En fait, parce que les combats sont pas très intéressants aujourd'hui, tu vois, il y a un côté, j'ai pas envie de me battre dans Zelda. En vrai, aujourd'hui, dans Majora's Mask.
C'est sûr que là, comparé, parce qu'on disait que justement, tous les codes étaient là, ils étaient aux bons endroits, mais c'est sûr que bon, Team From Software ici, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu d'affinement sur le combat, et c'est vrai que oui, aujourd'hui, se replonger dans Majora's, les combats sont pas passionnants du tout, et surtout que je pense que en fait la recette vraiment Zelda, ces trucs de donjon avec une énigme, un petit secret par salle, parce que c'est littéralement ce que c'est, hein, les donjons, ils sont quand même assez
Ils sont très denses, hein.
Ils sont denses, mais en même temps, tu vois, il y a pas de surplus, c'est-à-dire que chaque salle, elle a vraiment une fonction de navigation, il y a un petit truc dedans et tu trouves forcément, il y a toujours un petit quelque chose dans la salle. Bref, ils sont assez économes, même si c'est dense. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout. On n'a plus du tout ce format de jeu. Enfin, t'en connais, toi, des jeux modernes là, qui font des donjons un peu à la Zelda?
Autant des Zelda-like, il y en a toujours, mais il faut se tourner du côté des jeux indés.
Ouais.
Là, il y en a beaucoup.
Et encore, je trouve qu'en général, ils allègent plein d'aspects.
On est souvent dans la citation, dans l'hommage, dans le clin d'œil. Tu vois, on parlait de Tunic qui, évidemment. Il y a Death Door qui est sorti l'année dernière, qui fait ça. Enfin, j'en ai quelques-uns. En termes de jeux avec un gros budget, le dernier qui ressemble vraiment à du Zelda, c'est toute la série des Darksiders, qui là pour le coup c'est Zelda mais version comics, avec un gros guerrier qui a une grosse épée. Mais sinon, oui, la formule Zelda comment on pourrait dire, appliquée de manière aussi texto, c'est pas quelque chose qu'on retrouve tant que ça aujourd'hui.
Avec justement, toute cette grammaire, on a beaucoup évolué, de casser les peaux et de trouver l'objet dont t'as un peu besoin dans la
salle pour
le faire.
Parce que justement, c'est devenu des clichés, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, t'as beaucoup de jeux indés aujourd'hui où tu vas avoir des peaux, tu vas donner un coup dedans, va y avoir une petite blague, va y avoir un petit truc, parce que justement, ils partent du principe qu'on a tous cette espèce de... Tu sais, on a cette sorte de souvenir commun que tout le monde partage, mais c'est pas forcément le cas. Et justement, Max, là, nous, quand on en a parlé pour préparer l'émission, on s'est dit, oui, c'est vrai qu'en fait, c'est pas un truc qui paraît si évident que ça, alors que nous, on l'a intégré, ça y est. Enfin, tu vois, c'est comme, je vois quelqu'un qui a un point d'interrogation sur la tête, je sais que je vais devoir aller lui sauver ses poules. Il y a pas de problème.
Ça, c'est un peu plus explicite, on va dire, qu'aujourd'hui, qu'il faut allumer toutes les torches de la pièce parce que ça fait apparaître un truc. Enfin, c'est quand même logique, qu'est-ce que je vais te le dire.
Le maître du donjon, il a que ça à faire, tu sais, de régler ses petits trucs et tout.
J'ai tout éteint. Comme ça, il peut bien tout allumer. Après, c'est super. Je lui donne la clé.
enfin j'en laisse quand même une d'allumer, comme oui, ça pour, il comprend qu'il faut allumer les autres.
Je peux utiliser mon bout de bois pour allumer les autres.
Mais elle s'allumera quand le bébé Goron il dort, voilà, parce que quand même c'est la condition.
Attention, s'il vous plaît, de respecter tout ça. Bref, effectivement, il y a toute cette grammaire, et en fait, ouais, quand on connaît les Zelda, on est quand même à la maison, et voilà, ça, ça n'a pas trop changé. Tout ça pour dire que sur la structure vraiment de la quête principale, le jeu il est assez linéaire. Je trouve que la boucle finalement elle est pas artificielle, mais elle est juste là pour te, elle te, elle t'accompagne sur chacun des segments du jeu. Par contre, quand on commence à creuser vers les quêtes annexes, ah là, tout le bordel du ouais. petit livret des Bombers, alors là, effectivement, c'est un autre délire parce qu'il faut vraiment jouer le petit enquêteur, le petit stalker de Termina parce que, bah voilà, il y a beaucoup de villageois qui ont toutes leurs petites routines. Il y en a un, il sort le deuxième jour à 3h du mat pour aller faire tel truc. Et en fait, tout ça va nous permettre d'obtenir énormément de, bah, des quarts de cœur, des petits, des flacons, des machins, enfin tous les trucs, toutes les récompenses Zelda. Mais là, ça demande vraiment une sorte d'hygiène et de routine que j'avoue que j'étais pas du tout, j'étais pas du tout disposé à rentrer dedans là en faisant le jeu là maintenant.
Quelle surprise!
J'étais pas branché par ça, j'avoue que ça
mais
m'a pas passé.
Mais même à l'époque, c'était particulier parce que ça demandait vraiment d'être d'observer, de prendre des notes. Il fallait que tu prennes des notes.
Ah, fallait être super rigoureux parce que c'est
le journal te donne des informations, mais il va pas forcément tout te donner. Et ben le jeu attendait de nous qu'on soit vraiment à l'écoute et à l'observation de tout ce qui se passe pour essayer de découvrir des trucs. Parce que des fois, effectivement, tu vas croiser un personnage qui va te parler. Il est là que la nuit, que le deuxième jour. Mmh. Il est pas là le premier jour alors que t'es déjà passé par cet endroit-là. Mais bon, comme le jeu nous propose cette frise qu'on voit en permanence, on peut comprendre un petit peu ce qui se passe et noter au fur et à mesure. Mais si on a envie de tout faire, on va pas se mentir, moi à l'époque, de toute façon, il y avait le côté temps qui me stressait, puis j'étais un peu... Du coup, j'étais ado, parce qu'en y repensant, j'ai dû le faire qu'en émulation, mais j'avais la solution, tu vois, voilà, sopalaiszelda.com. Merci à vous, vous m'avez dépanné à fond sur
ce jeu-là.
De toute
façon, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt le consensus globalement que c'est un jeu qu'il faut faire avec un peu la solution, sinon... t'y arriveras pas
mais
forcément.
Sinon, tu vas y passer beaucoup de temps, c'est surtout ça. Et ben voilà, aujourd'hui, le temps, c'est une denrée, en tout cas, c'est une ressource qu'on n'a pas tant que ça.
Non, et puis c'est surtout qu'en fait, c'est pas... tous ces trucs routiniers, c'est pas des choses que tu côtoies tant que ça dans la quête principale qui est sur les autres régions, parce que tous ces trucs routiniers, ça se passe surtout dans le village de Bourg-Clocher. Et du coup, bah, faut pas mal zoner dans ce truc-là, faut traîner, faut se dire, vas-y, je passe du temps à regarder un peu tout ce qui se fait ici. Et bon, quand t'as envie d'avancer... En fait, tu fais un peu du surplace pour éventuellement débloquer des petits trucs, mais je trouve que comparé aux grandes aventures qui t'attendent vers les donjons dans les autres zones, bah c'est pas aussi intéressant.
Surtout qu'une fois sur deux, t'y vas, c'est fermé, ou c'est pas le bon jour, t'as quand même tous les temps de chargement, parce que Bourg-Clocher, finalement, c'est séparé en 4-5 zones, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est 5 zones,
ouais, bon, faut un peu cardinal. Se repérer, t'as les magasins et tout, bon, c'est une certaine charge mentale quand même que tu prends dans la tronche, ouais.
Ouais, et puis voilà, il y a des magasins qui s'ouvrent pas à telle heure, etc. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses à connaître, à connaître vraiment toute cette petite horloge, parce que c'est vraiment littéralement une petite horloge qui a sa routine et qu'il faut voilà, que tu comprennes tout ce qui se passe. Et encore une fois, comparé à un certain Outer Wilds, où justement le fait d'explorer t'emmène face à toutes ces routines, là, c'est quasiment décorrélé de la progression de la quête principale. Et ce qui fait que bah, forcément, j'avais pas la motivation, je prenais pas le temps de faire vraiment
et,
ça.
Et alors, inverse, pour des gamins de l'époque ou pour des ados de l'époque qui ont été marqués par ça.
Là, tu pouvais passer ton après-midi, samedi après-midi, je fais que ça et voilà.
C'est ça, t'observes. Tu sais, c'est l'idée vraiment. Moi, c'est des jeux fourmilières, c'est-à-dire que c'est des jeux où tu regardes ce qui se passe. Moi, je sais que j'avais beaucoup cette fascination-là avec les. Quand j'ai joué beaucoup à Metal Gear 5 ou même. J'étais plus Team Splinter Cell, mais j'aimais bien regarder justement les routines des gardes pour les apprendre et piger à quel endroit j'allais pouvoir passer. Et Majora, c'est un peu ça. C'est vraiment une espèce de petit monde qui tourne en permanence et tu peux l'observer avec ton point de vue unique de Link et tu vas essayer de noter et de t'amuser à voir où tu vas pouvoir intervenir quoi.
Ouais, parce que t'en as qui sont bien niveau enquête justement avec le postier, t'avais la quête du je sais jamais comment il s'appelle, Kefi et qui remet une enveloppe et du coup il faut voir le postier qui la remet à qui il la remet, enfin il y a un côté un peu piste qui est intéressant. Bon après t'en as plein d'autres, soit t'es pas intrigué, ça t'intéresse pas plus que ça, ou juste bah, tu sais que la récompense ce sera un quart de cœur. C'est vrai que moi il y a un côté complétionniste en fait dedans où faut que tu vas récupérer des masques qui sont potentiellement OSEF ou des rubis ou quart de cœur. Et bon, j'ai pas trop ce profil, effectivement. Tu vois, par exemple, il y a un truc qui fait beaucoup aussi dans le compétitionnisme, c'est les fées que tu peux retrouver dans chaque donjon. Il y a une dizaine, il y en a
plus,
beaucoup.
Plus, il y en a, ouais, en général, ouais, quasiment 18, un truc comme ça. Il y en a beaucoup. Ouais.
Et bon, les récompenses, je les trouve vraiment inintéressantes. Tu vois, c'est genre deux fois plus de magie ou t'es plus résistant. Enfin. Je m'en fous, enfin vraiment ça m'intéresse pas.
En fait c'est bien pour le dernier boss parce que moi j'en ai vraiment chié pour le faire. Bah,
deux fois moins de dégâts, c'est vachement utile si tu galères.
Surtout si t'as vainqueur.
Ouais c'est ça en plus, donc ce qui n'était pas trop le cas. Du coup ouais c'est ça vaut le coup. Mais encore une fois je pense que ce truc de rapport au temps et de dire bah voilà on pouvait t'avais qu'un jeu et tu t'investissais à fond dedans. Et du coup bah je pense que si tu le prends avec cette perspective là, le jeu il délivre de ouf quoi. C'est-à-dire il y a vraiment une densité, une complexité. Fou, hein. Et je pense que les gens qui sont vraiment rentrés dedans, qui ont vraiment tout voulu, tout fouiller et tout, il y a eu un temps à éprouver le jeu littéralement qui fait que forcément bah, ça te marque quoi.
Et il y a un truc moi que j'adore et que ça qu'on a vraiment avec le jeu vidéo et en particulier ces jeux comme ça où on va s'y investir et on va avoir ces boucles temporelles, c'est qu'on va s'approprier ces lieux, tu vois, on va s'approprier les lieux, on va s'attacher aux personnages, on va vraiment avoir l'impression de faire partie de cette petite horloge là et donc je pense qu'il y a un truc d'immersion qu'on retrouve difficilement dans notre jeu. On va vraiment être au cœur de Bourg-Clocher et de Termina pendant des semaines, des mois, le temps de tout faire quoi.
Et du coup bah voilà, tout ce truc de boucle temporelle et tout bah c'est resté assez longtemps le truc de Majora's Mask. Alors on a quand même pensé à quelques autres trucs qui sont sortis depuis...
dans le même délire. C'est vrai qu'on pense à FF13 3, donc Lightning Returns, qui propose vraiment le même système, hein. Lightning, elle a qu'un certain nombre de temps pour empêcher la fin du monde, etc. Il y a quelques jeux qui jouent avec les boucles temporelles, aidez-moi, on avait pensé à en noter.
Entre-temps ou récent?
Ouais, qui sont sortis à peu près de cette époque-là.
On avait mentionné Dead Rising.
Oui, Dead Rising, on est sur 360. Et là, on doit jouer avec le temps. En fait, on doit souvent. C'est pas tout à fait. Il n'y a pas une histoire de boucle. Là, en fait, on doit sauver des gens souvent. Ouais, en fait, on peut pas être à deux endroits au même temps et au même moment. Donc, on doit jouer avec ces trucs-là. Donc, il y a quand même un petit peu ce truc-là. Mais c'est des jeux quand même assez rares.
Jusqu'à
quelques années.
2-3 ans. Alors, il y a un peu plus longtemps, il y avait Sexy Brutal qui était sorti. Qui était un jeu voilà de murder mystery où justement il fallait revenir dans le temps, ça exactement. Mais là voilà, ces 2-3 dernières années, il y a eu une sorte de vague un peu de jeux à boucle temporelle. Alors là moi je pensais à Minit, il y avait le petit jeu là où il fallait vraiment revenir là-dessus. Et puis après bah ces derniers temps, il y a eu
Minute Zero aussi qui est dans le même délire.
Il y a eu Deathloop, il y a eu Outer Wilds, évidemment. On a noté Forgotten City. On a noté aussi 12 Minutes qui est sorti. Ouais. Et c'est vrai que là, ces dernières années, on est vraiment... C'est un exercice de style presque qui est vraiment revenu sur le devant de la scène et ça a permis de faire quelques belles choses, j'ai envie de dire.
Non, mais clairement. Par contre, on voit que ça a été adapté, justement, tu vois. C'est 12 minutes, c'est pas 56 minutes. Et bon, heureusement, parce que vu comme c'est chiant, ça serait horrible.
Oh là.
Mais justement, même dans un Deathloop, tu vois, chaque session de jeu est plus courte. Et en plus de ça, peut-être un jour, on aura l'occasion d'en parler. Il nous prémâche une partie du
découpé,
travail d'enquête.
Ouais.
Ce qui fait qu'on. C'est difficile aujourd'hui de faire autant confiance aux gens. Il n'y a que Outer Wilds, à mon sens, qui vraiment exploite à fond ce délire de Majora.
Et moi, sur le coup, j'étais assez étonné en fait qu'on n'ait pas beaucoup revu ce concept en fait entre Majora et maintenant la petite vague qu'on a, qui est pas non plus omniprésente, hein, mais parce que c'est un concept au cinéma qu'on connaît très bien, hein, le concept c'est Un jour sans fin, donc c'est Groundhog Day, qui a été décliné en série surtout, parce que des films autour de ça, il y a Edge of Tomorrow qui a été fait depuis, il y en a peut-être quelques autres, mais c'est un peu les deux films les plus connus, mais en série, enfin tu sais, Supernatural, Stargate SG-1, j'imagine que Buffy l'a eu, mais
les
je suis pas
épisodes
sûr.
Specials, boucle temporelle,
c'est le classique.
Et c'est un concept assez connu. Et qui marche toujours très bien, tu vois. Il y a plein, c'est une opportunité de faire des blagues, des enquêtes, des trucs. Parce qu'il y a toujours le moment où ils pètent un peu un câble, où ils décident de faire
en ont marre, etc.
Et du coup, ils font des trucs qu'ils auraient jamais fait avant. Donc, si en plus c'est des personnages que tu connais un peu, il y a des interactions intéressantes. Mais c'est vrai que dans le jeu, et pourtant, dans le jeu vidéo, justement, c'est à toi, justement, de maîtriser cette connaissance, d'optimiser la boucle.
C'est vraiment boucle, quoi. Littéralement, le jeu est construit sur des
boucles. C'est un concept qui est super. Sens,
parce que justement, je pense qu'il y a ce côté, comme tu disais, l'exercice de style, je le trouve intéressant, cette forme-là, parce que ça demande demande quand même une certaine maîtrise de ton univers, de
ouais,
ton LD,
de ta structure,
et de ta structure de jeu,
non,
etc.
C'est...
Et ça demande une
je
rigueur.
Pense que c'est chaud à faire.
Qui est pas si évidente que
non,
ça.
Non mais, c'est pour ça, Outer Wilds, on l'a dit, on le redit, c'est des ouf.
Ouais, bien sûr.
Et ça fait d'autres directions, en fait, que bah, notamment l'industrie AAA, parce que les exemples qu'on a cités, à part Deathloop, c'est que des indés.
Ouais. Ouais. Et encore, Deathloop, c'est pas non plus un monstre à la Assassin's Creed. Quoi.
Mais parmi les AAA, voilà, il y a plus ce côté, je pense, licence, tu voudras faire des suites. Alors, Majora's Mask, c'est une licence, mais les épisodes sont tous déconnectés les uns des autres. On aime bien faire des 2, 3, 4, et si tu fais un truc à boucle temporelle, c'est plus compliqué. Et aussi, bah, on a beaucoup plus les grosses. Bon, déjà, on est plus dans l'action, alors que la boucle temporelle, c'est pas trop ça. Alors,
ouais,
Deathloop,
plus...
du coup,
ouais.
va plus dans cette direction, c'est vrai, mais allie un petit peu les deux. Mais du coup, tu perds peut-être le côté enquête, justement.
Exactement.
Et juste un dernier truc, les AAA va aussi plutôt vers l'open world, alors que là t'es plus dans quelque chose de beaucoup plus refermé,
oui,
tu vas maîtriser le terrain. Quoi.
Sachant que ce qui peut se passer aussi dans les réflexions autour du GD, de ce genre de jeu, c'est que ben au bout d'un moment, tu vois, des jeux à boucle temporelle, il n'y a pas non plus, alors peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas non plus 46 milliards de façons de le faire, parce qu'on va retrouver souvent cette idée d'observation, de devoir apprendre la routine, etc.
Et de trouver des clés, en fait.
Ouais.
De toute façon, là, si on prend tous ces jeux-là, qu'on s'amuse un petit peu à construire,
il y a beaucoup de similitudes.
En fait, c'est vraiment genre, je vais faire une boucle qui me permet d'obtenir soit une information, soit une clé concrète mécanique, et après, je recommence la boucle, et cette clé me mène à une autre clé. Et de toute façon, tu peux pas tant le construire autrement.
Quoi. Et ça n'a pas été techniquement refait de cette manière-là, mais quelque part, les roguelikes,
très comme ça pour moi,
tous les jeux à la Hades, etc.,
oui.
Donc, tous ces jeux où, en fait, à chaque fois qu'on meurt, on a une progression, on a une méta-progression avec des objets, des pouvoirs, des trucs, on retrouve cette idée de boucle, en fait, puisqu'on recommence souvent du début, on refait un peu le même contenu, il y a cette idée de boucle temporelle, même si elle n'est pas exploitée stricto sensu comme dans un Majora.
Et moi, je pense sincèrement que l'idée de recommencer depuis le début, ça reste un truc segmentant. Je suis convaincu que ça, pour beaucoup de gens, ça peut être frustrant de fait, en fait, de se dire bah moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de progresser, j'ai pas envie de me retaper des trucs, même si en fait on connaît, tu vas faire les choses un petit peu différemment. Même les roguelites, ouais, ça marche bien dans une sphère de joueurs initiés, mais en fait c'est pas ça qui va faire 30 millions, 40 millions de ventes sur des jeux solo, des trucs comme ça.
C'est pas pour rien que Returnal, c'est le seul roguelike AAA qui existe.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est que c'est pas si évident, et je pense que malgré tout, le concept de la boucle, de devoir recommencer, de perdre sa progression, entre guillemets, même si on a bien compris que finalement ça marchait, c'était un peu plus subtil que ça, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens, à raison, parce qu'il y a un moment aussi, il faut quand même accepter de se dire, bah voilà, je fais ces boucles, je vais avoir ma routine, machin. C'est pas le truc, je trouve que c'est pas la perspective la plus excitante. Enfin, je trouve, tu vois, l'open world, tu vas voyager, tu vas voir des trucs complètement différents. Ça fait un peu plus rêver quand même.
Tu vois, les key points, quand tu vas y avoir des pitchs en interne chez Ubisoft, chez Electronic Arts ou autre, bon, bah c'est pas vous allez refaire la même chose en même temps.
Exactement,
c'est action, action, panorama, machin.
Ouais, pardon.
Non, mais j'allais dire, on est plutôt dans la logique du grand spectacle. C'est-à-dire que, bon, quelques années après, quand on a commencé à avoir les Call of, les Uncharted, etc., les AAA aujourd'hui, ils sont là pour nous proposer un grand spectacle. Et clairement, ce truc de boucle temporelle, on est tout de suite dans de la niche, effectivement, de gens qui connaissent bien les jeux vidéo, qui sont intéressés par le truc et qui voient l'objet comme une espèce, tu vois, de curiosité avec laquelle ils vont vouloir jouer et qui sont pas dans une logique qui est tout à fait noble et qui est pas du tout décriée ici, qui est de se détendre.
Ouais,
tu vois,
ces
gens juste.
Il y a,
un bon
une implication, de façon, c'est pas des jeux, tous ces jeux là c'est quand même un peu toi qui va devoir dicter ton propre rythme de prendre l'initiative sur les choses, et c'est vrai que bah encore une fois Outer Wilds, voilà, et comme Majora, si tu rentres pas dedans, tu dis pas bon bah vas-y j'y vais, même si Majora t'aide pas mal, il faut avoir cette hygiène et tout pour progresser.
On peut citer sinon Hitman où il y a quand même un petit peu ça. Alors on n'est pas non plus sur du giga triple A et tout, mais il y a ce côté vraiment routine, horloge et des actions que tu vas pouvoir déclencher une chronologie en fait d'événements, et tu vas pouvoir exploiter un petit peu
clairement. Oui, on retrouve ce côté fourmilière,
on les qualifie parfois limite de jeux à boucle temporelle, les jeux Hitman, parce que quand tu recommences un niveau en termes de GD, il y a des grosses similitudes avec ce truc là, le truc ouvert où tu vas pouvoir intervenir sur une chronologie, parce que c'est ça en fait, parce que concrètement Hitman, oui, il n'y a pas dans la DG une boucle temporelle, par contre les routines des PNJ etc, c'est une boucle, il y a quelque chose, quoi qu'il y en a, il y a certains trucs qui se termine, mais globalement c'est des boucles et tu vas devoir essayer de, comme une abeille, venir un peu piquer au milieu à ces différents endroits.
Mais encore une fois, t'es dans des jeux qui vont pas forcément te demander, mais qui s'adresse quand même à un certain public, ouais, qui aime bien recommencer, qui aime bien refaire. Il y avait les trucs des challenges, des daily challenges, machin. Parce que sinon, en termes de boucle temporelle, on peut citer certains immersive sims ou jeux d'infiltration où en fait, les plus hardcore vont recommencer et le faire d'une autre manière. Tu vois, un Dishonored, c'est ça. Finalement, ta boucle temporelle, c'est ton sauvegardé chargé, quoi.
Mais du coup, encore une fois, je pense que voilà, ça, pour moi, il y a une segmentation naturelle. Mais en revanche, bah, ça reste un exercice de style intéressant que Majora avait déjà vachement bien balisé, en fait, parce qu'il y a encore une fois, quand on commence à prendre un peu de recul, on se dit que Ocarina avait déjà trouvé plein de bons codes, et là, sur la boucle temporelle, sur leur manière de la construire et comment dire, la mixer avec les codes qu'ils avaient, c'est-à-dire voilà, les donjons, les machins, en fait, encore une fois, ils sont vachement bien démerdés, tu vois.
Ils étaient super en avance.
Ouais, vraiment très très fort, quoi.
Il y a quelques petites imprécisions maintenant où, justement, avec l'expérience, on ferait différemment, en fait, et on le fait déjà, hein, on l'avait dit déjà à la longueur de la boucle, mais ou sinon, enfin, au niveau des allers-retours, ils abusent aussi sur certains trucs.
Ouais, certains trucs.
L'eau chaude de la source des Gorons, c'est infernal.
Maxime,
il faut remonter une falaise avec la lentille pour bien voir. Non, arrêtez. Enfin, vraiment.
Non, mais c'est ça. Il y a plein de trucs. On l'a pas dit vraiment au texto, mais il y a plein de trucs qu'on ferait plus comme ça.
Ouais, on les skipperait autrement. Il y aurait des raccourcis
3DS, un peu différent. Justement, allège certains trucs un peu fastidieux comme ça.
Mais en vrai, c'est déjà très bien qu'ils aient eu ce concept, tu vois, avec les contraintes qu'ils avaient en 2000. Et puis, même en plus de ça, enfin, moi, je trouve l'ambiance, elle reste super, tu vois, dans le jeu. On disait c'est un peu inquiétant, un peu horrifique, mais c'est un jeu qui me faisait un peu peur. J'avais pu y jouer un peu sur 64 et j'ai dit non, celui-là on va pas jouer.
Tu veux pas acheter,
ouais. Bon, on n'avait pas le 64 de toute façon, mais voilà, il m'avait pas motivé plus que ça. Mais même aujourd'hui, tu vois, je trouve que vraiment t'as des ambiances, tu vois, le donjon Mojo, je trouve que la musique elle est vraiment cool, et le boss aussi il est vraiment particulier, il a un design spécial. Et avec il y a un côté un peu rétro, c'est qu'il a des voix, mais tu sais, c'est genre les voix de Nintendo 64, donc il est un peu spécial, mais je trouve que ça marche toujours très bien avec son design. Donc j'en ressors, enfin, j'ai pas trop aimé y jouer aujourd'hui, tu vois, en 2022, c'est un jeu, voilà, trop de trucs chiants à faire, trop de trucs un peu, voilà, du passé de Zelda, mais je reproche pas au jeu, tu vois, ce qu'il faisait à l'époque c'était quand même globalement très bien, mais en termes d'ambiance, je trouve toujours
la
canon.
La DA est vraiment super réussie, en fait, arriver à passer de ce truc très lumière et ombre qu'il y avait dans Ocarina of Time, qui était vraiment sur un truc un peu plus manichéen, hein, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, alors que là c'est un truc qui est beaucoup plus pernicieux dans le son. Il y a ce truc un peu violacé, enfin, ils sont partis sur des palettes de couleurs, des musiques et tout qui sont vraiment différentes. Et ouais, la DA est vraiment dingue, ils ont réussi à toucher quelque chose. Et d'ailleurs, on peut le dire que la saga Zelda ne fera plus jamais un jeu aussi un peu ambigu comme ça.
À voir, tu vois, ce qu'ils feront avec un Breath of the Wild 2,
ouais, bah, c'est pour ça qu'on est trop curieux. Est-ce que ce sera le Majora's Mask de...
Bah, c'était ce qu'on se disait au
teaser.
Oui,
c'est ce qu'on se disait au teaser. Ouais.
On sentait qu'il y avait quand même un côté un peu dark, là. Je me souviens qu'il y avait une sorte de gros squelette, machin, qu'on voyait. Fin...
Ouais, puis la musique, il y avait un truc un peu inquiétant aussi. Ouais,
en fait, il y a le teaser, parce qu'il y a eu le trailer depuis où on voit un peu plus, on est plus dans les cieux et tout, donc on n'a plus trop cette impression. Mais le teaser de départ, c'était dans les cavernes avec les torches et tout, et t'as l'espèce de cadavre de Ganon. Voilà, ouais. Je crois que t'as le cadavre de Ganon, et il y a une espèce de truc violet autour de lui. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont dit, ouais, ils font peut-être une Majora's Mask.
Ils font peut-être une Majora's Mask. Mais voilà, c'est ce qui fait que, justement, je pense que tout le monde se dit ça. Ça montre que Majora's Mask, malgré le fait que ce soit un des épisodes les moins vendus, en tout cas des épisodes console de salon, bah c'est un épisode qui reste marquant, et surtout qui profite d'un bouche à oreille, du coup, parce que quand tu vas aller chercher les fanzous, on en parlait, on sait que voilà, eux ils sont prolifiques, hein, ils vont t'en parler de Majora. Les vidéos de Majora's Mask is the masterpice, de le chef-d'œuvre incompris, voilà, c'est ça, d'analyse pour vous expliquer que c'est un chef-d'œuvre incompris, il est là. Et ouais, du coup, c'est un jeu vraiment qui reste unique à la fois dans sa proposition ludique et tout, même si depuis on a essayé de faire un peu des choses comme ça, mais pas tout à fait comme Majora's Mask. Et puis voilà, à l'aune de la saga Zelda, bah c'est vraiment un épisode complètement complètement unique aussi, quoi.
Et c'est pour ça, justement, qu'on voulait en parler aujourd'hui, pour justement sortir un peu des sentiers battus d'Ocarina of Time, parce que bon, on peut lui jeter des fleurs pendant une heure et demie,
oui,
mais tellement de gens l'ont déjà fait avec nous, on avait envie de revenir sur cet épisode là qui a qu'il y a voilà, beaucoup de choses qui et le rendent complètement unique.
Et puis sur les
unique.
Autres qui suivent après, qui vraiment reprennent en fait la formule Ocarina plus classique.
Twilight
tu vois,
Princess, c'est une espèce d'Ocarina
Waker, c'est
of Time
pareil.
Classique.
Alors je m'y connais pas trop, mais il y en a au moins un qui avait quand même un peu éclaté le truc, où tu faisais les donjons un peu dans l'ordre
ça,
que tu voulais.
Ça c'est Link Between Worlds, ouais, donc ça c'était sur 3DS il me semble.
Oui,
et
c'est un épisode relativement récent entre guillemets.
Voilà. Ouais. Donc voilà, merci de nous avoir écouté revenir sur ce Majora's Mask. On remercie une nouvelle fois notre sponsor, Third Edition.
Mais pas que
c'est bon, on est arrivé. Donc, merci voilà, de nous avoir rejoint une nouvelle fois pour sponsoriser Fin du Game. Tous les bouquins Zelda sont dispo sur le site. Normalement, vous allez sur le site de Third. Et évidemment, allez, pendant qu'on y est, on peut faire la pub pour Le Poteau, pour Benoît. Il y a encore des livres qui sont en dispo, oui.
Ah bah,
monsieur.
De quoi
de toi,
oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Voilà,
bah,
c'est quoi,
classique.
C'est Diablo, The Witcher,
Dead Cells, voilà. Le prochain, il sera annoncé bientôt.
Oh là 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 là, et ben voilà, vous suivez Third, comme ça, vous serez au courant de tout ça. On remercie une nouvelle fois Fanny voilà, pour sa petite capsule. C'était trop cool de l'entendre dans Fin du Game. La Fin du Game Family s'agrandit, ça fait plaisir. On vous remercie évidemment de nous soutenir sur Patreon. On se retrouve dans 2 semaines pour parler de quoi ? Pour parler encore de boucles.
Et oui, et de visuels novels.
Ah là là !
Ça y est.
Tu nous emmènes là sur des terrains.
Ah oui, non, mais doucement, on glisse dans la Wibri. C'est pas mal.
Donc on se retrouvera pour parler de 13 Sentinels. Aegis Rim, Aegis ou Aegis Rim? Est-ce qu'on le prononce?
On dit Aegis en anglais.
Aegis Rim, that's it. Voilà. Donc on se retrouvera pour parler de ça. On vous remercie. Salut.
Ciao.